Le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifiés en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Si quelqu'un peut y aller avec moi, qu'est-ce qu'il est bon d'adorer le Saint-Esprit? Ah oui. Avant de t'asseoir, regarde celui qui est près de toi et dis-lui, tu es une personne très spéciale, mon Dieu. Dis-le à quelqu'un. Amen. On peut s'asseoir. Alors, vous nous excuserez, je n'ai pas envie de dire vous m'excuserez, je dirais vous nous excuserez, parce qu'on a déjà pris un peu sur notre temps, mais on se laisse conduire par Dieu. Je crois que Dieu n'a pas besoin d'une heure pour nous parler. Dieu n'a pas besoin d'une heure pour nous parler. Et Dieu ne se limite pas aux moyens des hommes. Dieu ne se limite pas aux moyens des hommes. Il fait bien au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou même penser. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous attendre à lui. On ne sait pas comment il fait, mais il fait, c'est tout. Amen. Il te montre la destination où tu dois aller. Il te montre l'objectif que tu dois atteindre, mais il ne te dit pas comment. Il dit à Abraham, va sur la montagne que je te montrerai. Et lui, il marcha pendant 3 jours. Pendant 3 jours, le gars marchait sans savoir où il allait, jusqu'au jour où Dieu lui a dit, c'est bon, tu peux t'arrêter ici, c'est cette montagne-là. Dieu fonctionne toujours comme ça. Est-ce qu'on peut dire avec moi, Dieu est réel? Oui, Dieu est bien réel. On a souvent tendance à oublier cela quand on fait face à la vie. On a souvent tendance à oublier cela. Dieu est bien réel. Bienvenue encore à la maison du bâtisseur. Aujourd'hui, on a une courte journée. On n'a pas une longue journée, on a une courte journée. Aujourd'hui, on a un rendez-vous. Hein? On a un rendez-vous. Beaucoup d'autres personnes ont trouvé le moyen de vaquer à d'autres occupations, certainement très légitimes. Mais nous, on a fait le choix d'être là. Alors, j'ai envie de nous dire que nous sommes les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment, n'est-ce pas? Parce que là où Dieu est, là où Dieu est, on a tout ce dont nous avons besoin. Hein? Dieu est réel. Est-ce que tu peux encore dire avec moi, Dieu est réel? Réussir son mariage avec Dieu. Ah. C'est un thème intéressant, n'est-ce pas? C'est un thème intéressant, mais aussi très délicat. Très délicat. Réussir son mariage avec Dieu. Aujourd'hui, la maison du bâtisseur a envoyé une sainte convocation. Une sainte convocation à la terre. En disant, allons nous retrouver tous au pied du maître afin de se laisser enseigner et de se laisser instruire sur le sujet du mariage. Pour votre information, à la maison du bâtisseur, on prie beaucoup. Pour ceux qui ne viennent pas ici. Et quand on prie, quand on marche avec le Seigneur, que ce soit au niveau individuel dans notre vie ou que ce soit au niveau de la communauté, l'église, quand on prie, on demande toujours à Dieu où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce que tu nous emmènes? Je ne sais pas si tu le sais déjà, mais demain, on est le 1er juin. Demain, on est le 1er juin. Nous rentrons dans le 6e mois de l'année. Ça veut dire qu'on est déjà à la moitié de l'année. Ça passe vite, hein? Hein? Ça passe très vite. Le temps passe vite. Le temps passe vite. Et parce que le temps passe vite, on doit le maximiser, on doit l'optimiser et se concentrer sur l'essentiel. Amen. On doit se concentrer sur l'essentiel, on doit se concentrer sur ce qui nous fait avancer dans la vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens et de situations que j'appelle des futilités qui nous font perdre beaucoup de temps et qui nous amènent à nous déconcentrer de l'essentiel, de perdre de vue l'objectif que Dieu nous fixe, de nous embrouiller avec tout un tas de choses et de nous retrouver à chaque fin d'année en n'ayant rien fait. Maintenant, quand on prie, quand on a prié le Seigneur, on a demandé, Seigneur, tu nous as donné la charge de ton église, qu'est-ce qu'on fait? De quoi a besoin ton peuple? Je ne suis pas le genre de personne qui donne aux gens ce dont ils ont besoin, qui disent aux gens ce qu'ils veulent entendre. Je suis le genre de personne qui cherche toujours ce que Dieu veut dire aux gens. Amen. Ce qui plaît aux gens, ce qui excite aux gens, le plus souvent, ce n'est pas ce que Dieu veut donner. Malheureusement, il y en a beaucoup qui sont rentrés dans un commerce, si je peux dire ça ainsi, pardonnez-moi du terme, mais bon. Il y en a beaucoup qui sont rentrés un peu dans ce commerce-là, de donner aux gens ce qu'ils veulent entendre afin de les attirer. Mais ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Parce que ce que le Seigneur veut, c'est que nous portions du fruit. Amen. C'est que nous portions du fruit, c'est que nous grandissions. Que l'on grandisse, qu'on développe notre communion avec lui et que nos vies soient des témoignages à sa gloire. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, lorsque l'on donne notre vie à Jésus-Christ et que l'on expérimente la nouvelle naissance, la Bible nous dit qu'on passe du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Et dès qu'on arrive dans le royaume, on se doit de grandir. Et Dieu, en ce qui concerne notre croissance, en ce qui concerne notre progrès, notre avancement, il s'intéresse à tous les domaines de notre vie. Il n'y a pas que ta vie spirituelle qui intéresse Dieu. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui croient qu'il y a juste la vie spirituelle qui intéresse Dieu. Dieu s'intéresse à tous les domaines de ta vie. Tous. Dieu s'intéresse à ta vie spirituelle, mais Dieu s'intéresse aussi à tes finances. Dieu s'intéresse aussi à ton travail. Dieu s'intéresse aussi aux relations que tu as, que tu entretiens avec les gens. Et Dieu s'intéresse aussi à ton mariage. Est-ce qu'on peut dire avec moi le mariage? Le mariage est quelque chose, est un sujet qui est très important. Mais lorsque je me tiens devant mon ordinateur, parce que moi je passe beaucoup de temps sur l'ordinateur et sur Internet souvent, je passe mon temps souvent à parcourir les sites Internet, particulièrement chrétiens, francophones et anglophones. Et je me rends compte qu'il y a des sujets qui sont traités, mais qui ne sont pas suffisamment traités. Les gens ont des problèmes. Hein? Moi et ma femme, lorsque nous sommes rentrés à Libreville, on venait d'Europe. Déjà en Europe, ils ont des problèmes, ils ont beaucoup de problèmes. Hein? Mais quand on arrive en Afrique, c'est chaud. Il y a trop de problèmes. Les gens souffrent trop. Et quand tu donnes ta vie au Seigneur et que tu arrives dans l'église, tu t'attends à trouver des gens heureux et épanouis, puisqu'ils ont rencontré la vie. Hein? Ils ont rencontré le Seigneur. Ils ont rencontré la merveilleuse personne de Jésus-Christ. Il y en a, ils ont même expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Ils prient en langue. Ils vont à l'église tous les dimanches, aux réunions de prière toutes les semaines, les cellules de maison. Il a sa grosse Bible entre les mains, mais lorsque tu regardes son foyer, ça ne va pas du tout. Et quand on regarde comment les gens sont malheureux, la question qu'on se pose, c'est mais pourquoi les gens sont aussi malheureux? Pourquoi les gens sont aussi, ont autant de mines tristes? Pourquoi les gens sont aussi tristes? Pourquoi les gens à l'église ont du mal à décoller? Quand on vient à l'église, excusez-moi encore du terme, mais il y a trop de bouillie fâchée. Les gens sont frustrés. Et là, ça nous a amené à nous arrêter et à dire, mais Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec ton peuple? Qu'est-ce qui ne va pas avec ton église? Un jour, j'étais dans la rue en train de distribuer des flyers. J'étais en train de distribuer ce flyer-là. Il y a écrit dessus, « Connais-tu Dieu? As-tu besoin de son aide? As-tu besoin de soutien en ce moment ?» Pour en savoir plus, rejoins-nous à l'église, la maison du bâtisseur. Je donnais ça, il lit et puis il fait, « Un, je n'ai pas besoin de son aide. Je n'ai pas besoin de son soutien. Deux, et trois, l'église, vous nous fatiguez. On est fatigué de vous. » Il me répond ça. Qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un, qui te dit ça? Il n'est pas fermé à l'évangile, hein. C'est juste que le témoignage que l'église lui donne ne lui donne pas envie de venir à l'église. Alors que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 5 au verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. » On l'a enseigné ici dimanche dernier. « Vous êtes le sel de la terre. » Le sel est un aliment particulier parce qu'il donne du goût. Il donne de la saveur. Tu mets n'importe quel aliment en contact du sel et cet aliment obligatoirement devient salé. Vous êtes la lumière du monde, c'est-à-dire vous éclairez les autres. Donc c'est eux qui sont censés être dans les ténèbres et c'est vous qui êtes censés éclairer. Et rappelez-vous quand vous entrez dans le contexte que Jésus-Christ, lorsqu'il parle, il s'adresse à des gens qui sont en esclavage romain. Ce sont des gens qui souffraient aussi. Des gens qui se levaient tous les matins étaient obligés d'aller aux travaux forcés, dominés par les Romains. Et il leur dit, vous êtes la lumière du monde. Mais ces gens le regardent en disant, mais est-ce que tu es sûr que ça va, Jésus? Parce que tu parles à des gars qui sont enchaînés là. Et il dit, non, c'est vous qui devez éclairer ce monde. Et cette parole est toujours valable aujourd'hui pour l'Église. Et quand on regarde aujourd'hui le Gabon, parce que nous sommes au Gabon, quand on regarde au Gabon, c'est l'Église qui est censée éclairer le monde. C'est l'Église qui est censée nous éclairer. C'est l'Église qui est censée éclairer les perdus. Que ce soit à titre d'Église, mais aussi à titre individuel. Au niveau de ta vie, on doit être capable de dire que ta vie est une lumière pour tous les gens qui t'environnent, qui t'entourent. Lorsque tu es en présence des païens, ils doivent être éclairés. Et les mauvaises œuvres qu'ils font doivent être dénoncées, non par les paroles qui peuvent manquer de sagesse que tu peux prononcer, mais juste par ton témoignage. Hein? Dieu s'intéresse à tous les domaines de notre vie. Et Dieu veut qu'on réussisse. Est-ce qu'on peut dire avec moi, Dieu veut qu'on réussisse? Dieu veut que tu réussisses. Aucun fabricant ne fabrique un produit pour voir ce produit échouer. Toute personne qui fabrique un produit fait tout, la promotion, la communication, le commercial, pour que ce produit soit au bout du compte vendu. Et lorsque Dieu te crée, il veut que tu réussisses. Dieu est le plus grand de tous les investisseurs. Vous allez vous rendre compte que s'il y a bien un sujet qui met Dieu en colère dans la Bible, c'est le sujet du fruit. Quand on ne porte pas de fruit, ça met Dieu très en colère. Jésus-Christ a maudit le figuier parce qu'il ne portait pas de fruit. Et quand Dieu regarde ta vie, il faut qu'il voit le fruit. S'il ne trouve pas le fruit, ça l'énerve. Ça l'énerve. C'est comme un enfant malade qui ne grandit pas. Et Dieu s'intéresse à tous les domaines de ta vie et Dieu s'intéresse à ton mariage. Je vais te dire pourquoi Dieu s'intéresse à ton mariage avant que l'on rentre. Dieu s'intéresse à ton mariage parce que le mariage est l'un des domaines qui détruit le plus les vies des gens. Les pasteurs font un travail extraordinaire dans l'église. Ils suivent les brebis, ils enseignent la parole de Dieu, ils se consacrent et se sacrifient, mais dès que les gens sortent et rentrent chez eux à la maison, c'est le désordre. Et tout le travail accompli dans la vie des enfants de Dieu est réduit à néant. Il y a trop de choses qui ne vont pas. Et Dieu veut qu'on réussisse. Dieu veut qu'on réussisse dans tous les domaines de notre vie. Amen. Dieu veut qu'on réussisse dans tous les domaines de notre vie. Et aujourd'hui, on va parler d'un domaine très important qui est le mariage. J'ai dit, Seigneur, avec mon épouse, on a prié, on a dit, Seigneur, de quoi allons-nous parler à ton peuple durant l'année 2014? Il a dit, parlez-leur de ce dont ils ont besoin. Et il y a trop de désordre dans mon église. Le péché afflue dans l'église. Il y a trop de méconnaissance et d'ignorance au niveau de la parole de Dieu dans mon église. Et parce qu'il y a de l'ignorance dans mon église et que le péché est assis dans mon église, alors je ne peux pas répandre ma faveur sur mon église. Parce que je vais vous dire une chose, Dieu ne blague pas avec le péché. Tout à l'heure, on a chanté « Tu es saint, tu es saint ». Dieu est saint. Et quand les disciples demandent à Jésus, apprends-nous à prier, il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom est saint. C'est la première chose qui le caractérise. Donc Dieu ne blague pas avec le péché, les amis. Et malheureusement, après enquête, force est de constater que ça ne va pas dans l'église. Ça ne va pas au niveau des relations entre les gens. Ça ne va pas dans les couples, ça ne va pas dans les foyers. Amen. Et Dieu, aujourd'hui, nous demande de faire le ménage. Dieu nous demande de faire le ménage parce que s'il y a bien un domaine dans lequel Dieu veut nous voir épanouis, c'est dans nos relations sentimentales et amoureuses. Amen. Parce qu'il suffit d'une personne pour faire de ta vie un enfer ou un paradis. Si tu choisis la mauvaise personne, cette personne va te pourrir la vie. Et beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent, entre guillemets, coincés parce qu'ils ne veulent pas divorcer. Ils sont juste mariés, mais ils ne sont pas heureux. Ils sont juste ensemble, mais ils ne sont pas heureux. Ils sont forcés ensemble. C'est comme ça que tu vois monsieur et madame arrivent à l'église tous les matins. Madame s'assoit là, lui s'assoit là. Ils ne se parlent plus. Quand ils roulent dans la voiture, elle est comme ça à la fenêtre. Lui, il conduit, il joue un peu avec la radio. Ils ne se parlent pas. Ils sont juste ensemble, c'est tout. Il y en a beaucoup des couples comme ça. Alors que le mariage, Dieu l'a institué pour que nous soyons heureux, on va le voir tout à l'heure. Amen. Donc le mariage est très important. Dieu nous a fait comprendre qu'il faut en parler. Il faut en parler et un séminaire comme celui-là ne suffira pas à dire tout ce qu'il faut concernant le mariage. Aujourd'hui, on ne pourra pas tout dire. On va aborder un certain nombre de points, mais on ne pourra pas tout dire. C'est la raison pour laquelle, à la maison du bâtisseur, le Seigneur nous a fait comprendre que vous allez mettre l'accent sur les couples et les mariés, et en général la famille. Vous n'allez pas blaguer avec ça. C'est pour cela qu'à la maison du bâtisseur, ce séminaire ouvre une longue série d'enseignements concernant les couples. Paul a enseigné à Corinthe pendant 2 ans. Si Dieu nous dit, vous allez enseigner pendant 2 ans concernant le mariage, on va enseigner pendant 2 ans concernant le mariage. Tu risques de t'ennuyer. Non, tu ne t'ennuieras pas parce que le mariage, la Bible dit que c'est un mystère. Et quand Dieu révèle un mystère, c'est tout simplement passionnant. Amen. C'est tout simplement passionnant. Et il y a tellement de choses à dire sur les couples non mariés, sur les couples fiancés, la préparation au mariage, comment on fait pour ne pas échouer, comment choisir le bon conjoint, comment est-ce qu'on prépare son mariage, quand on est marié, quelles sont les clés pour pouvoir prospérer dans son foyer. Mais Dieu s'intéresse aussi à l'homme. L'homme, tu es qui en tant qu'homme? Quelle est ta place dans la maison? Quel est ton rôle devant Dieu et devant ta femme? Quel rôle as-tu à jouer dans le royaume? Pourquoi Dieu met le mariage dans ta vie? Et pourquoi veut-il que tu réussisses dans le mariage? La femme, pareil, elle a un rôle aussi à jouer. C'est très important. Au lieu de t'intéresser à l'argent, à l'entrepreneuriat, aux affaires, qui sont aussi des sujets très importants, intéresse-toi d'abord à la personne qui est à côté de toi tous les matins quand tu te réveilles. Parce que cette personne, si tu ne la connais pas, tu risques d'avoir des soucis. Tu risques d'avoir des soucis. Donc la priorité des priorités, hein, c'est ce que Dieu met devant tes yeux. C'est-à-dire la personne qui est à côté de toi tous les jours. Il faut que tu la connaisses. Et lorsque 2 personnes décident de s'unir par les liens du mariage devant Dieu et comprennent cette révélation qu'on appelle le mariage, non seulement ils sont heureux, ils s'épanouissent, mais en plus, ils entrent dans les promesses que Dieu a pour eux dans leur vie. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 2, à partir du verset 15? Alors, aujourd'hui, on va commencer doucement. Hein? On va aller doucement. Ne sois pas pressé. Et si tu peux, vraiment, je t'invite à rester jusqu'à demain. Parce que là, c'est l'entrée. Tu vois? Ensuite, on va faire une pause. D'ici 1 heure, on va faire une pause. On va manger, on va se restaurer. Et on va reprendre à 14 heures. À 14 heures, on va reprendre une 2e session d'enseignement. Ce sera le déjeuner. Donc là, on va rentrer en profondeur. Donc, faut pas trop manger. Parce que si tu manges trop, tu risques de dormir. Et si tu dors, tu risques de rater des choses. Hein? Donc à 14 heures, on va reprendre 1 heure d'enseignement. Et à 15 heures, on va faire un atelier. 2 ateliers. On va séparer les couples mariés et officiellement fiancés. Je dis bien officiellement. Et on va mettre d'un autre côté les célibataires. Parce que les deux sont différents. On ne peut pas les mélanger. Hein? Donc, ne viens pas me dire que celle-là, c'est ma femme et puis tu ne l'as pas vraiment épousée. Mais on est ensemble depuis des années, donc c'est ma femme. Non, ce n'est pas ta femme. Oui, mais c'est ma fiancée alors. Non, ce n'est pas ta fiancée. Tu t'es présenté aux parents, pas encore. Tu as fait le mariage à la coutume. Non. Tu es allé, il y a eu une cérémonie où tu as passé la bague au doigt devant les parents en annonçant que tu prépares un mariage pour cette femme et que tu vas prendre sa main. Non, donc ce n'est pas ta fiancée. C'est juste ta copine ou quelqu'un que tu fréquentes, mais ce n'est pas ta fiancée. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Hein. Je me calme parce que quand je vais attaquer ça... Hein, donc on va se séparer. Donc vous pouvez être venu à deux, mais s'il n'y a pas eu de fiançailles ni de mariage, vous vous mettez chez les célibataires. Vous vous mettez pas chez les fiancés officiellement ou les mariés. Donc on a prévu une tente dehors. Il y aura deux ateliers. Le premier atelier pour les célibataires sera intitulé Identifier et vaincre les ennemis du célibat. Et l'atelier pour les couples, ce sera identifier et vaincre les ennemis du mariage, les ennemis du couple. Amen. Donc, on va tous se retrouver et on va travailler ensemble. Ensemble, vous allez travailler en groupe. Et vous allez identifier, vous allez élire un porte-parole dans votre groupe et vous allez identifier tous les obstacles et tous les ennemis qui peuvent se dresser sur votre route pour vous empêcher de vivre un mariage heureux. Vous allez parler entre vous. Hein? Et puis, ensemble, après, on va en débattre. On va discuter. Et bien entendu, on pourra aussi poser des questions. Donc là, je sens qu'il y en a qui vont se lâcher. Faut vous lâcher, on est là pour ça. On est là pour ça. Des sujets comme ça, il n'y en a pas toute l'année. On va discuter, tout en restant correct. D'accord? Et les couples, pareil. Il y a peut-être des choses que un autre couple vit, que toi, tu ne vis pas dans ton couple, ils peuvent t'enseigner. Donc, tout ça, on va le faire cet après-midi. Et bien entendu, et après, on va prier. Tous ensemble, on va prier. Et puis demain, on va clôturer avec le dessert. Amen. Ce sera le dessert. Demain, ça va être bien par la grâce de Dieu. Je pense que Dieu va nous conduire. Dieu va nous conduire. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on a pris nos Bibles? Genèse 2, verset 15. Aujourd'hui, le sujet que je vais ouvrir avec vous est intitulé « Réussir son mariage avec Dieu, c'est possible ». Est-ce qu'on peut dire avec moi « c'est possible » ?
C'est possible.
Oui, c'est possible. Avoir un mariage heureux, épanoui, à la gloire de Christ, c'est possible. Genèse 2, verset 15, va être un peu notre passage de base. D'accord? Vous allez voir que tout au long de l'enseignement, cet après-midi et demain, on va souvent revenir sur ce passage-là, bien qu'on va citer d'autres versets, mais on va souvent revenir sur ce passage-là, parce que ce passage-là est le passage qui nous instruit le plus sur le mariage. Amen? On y va. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les oiseaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. » L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Gloire à Dieu. C'est un passage qu'on connaît très bien, n'est-ce pas? Tu me dis oui, mais je t'assure qu'il y a beaucoup de choses dedans que tu n'as pas vu encore. Parce que dedans, il y a beaucoup de choses. Si tu comprends tout ce qui est écrit ici, ton mariage, c'est sûr qu'il réussira. Gloire à Dieu. Donc, on va rentrer doucement, petit à petit. Amen. Une chose est sûre, hein? S'il y a un secret pour qu'un mariage soit réussi, il faut admettre que dans notre culture, dans notre façon de vivre, malheureusement, il y a beaucoup de couples qui n'ont pas trouvé ce secret. Et pour que les gens s'épanouissent dans leur couple, pour que les gens s'épanouissent dans leur mariage, il faut les enseigner. Tout comme un enfant a besoin d'aller à l'école pour apprendre à lire et écrire et expérimenter les joies de la vie au niveau professionnel, de même, on a besoin d'apprendre les principes de succès et de réussite dans le mariage avec Dieu. Amen. Tout fabricant, lorsque tu achètes un appareil électroménager, il te livre toujours cet appareil avec une notice. Mais vous n'avez pas remarqué que la plupart d'entre nous, lorsque l'on ouvre le carton, on jette la notice, pensant qu'on connaît comment fonctionne l'appareil. On branche l'appareil, tu mets play, et puis ça suffit, reculer, avancer, enregistrer. Ça suffit largement. Mais l'appareil peut faire beaucoup d'autres choses. Si je prends ce téléphone qui est là, ce téléphone ne sert pas juste à téléphoner. Ce téléphone sert aussi à enregistrer. Ce téléphone sert à faire caméra, photo. Il te permet de consulter tes comptes bancaires. Il permet de consulter tes mails. Il permet de faire beaucoup de choses. C'est pour cela que lorsque tu allumes ce téléphone pour la première fois, il y a une fenêtre qui s'ouvre et qui te dit « On va te faire une visite virtuelle du téléphone pour te montrer un peu tout ce qu'il contient. » Et souvent, on a tendance à cliquer sur la croix pour fermer la fenêtre parce qu'on est pressé d'appeler. Et dire à l'autre, tu vois, je me suis acheté le dernier téléphone à la mode. Et bien, c'est pareil quand les gens se marient. On sort la robe blanche, on sort le costume gris ou noir, et puis on appelle tout le monde en disant, tu vois, je me suis marié. Mais est-ce que tu as pris le temps d'aller t'asseoir au pied du maître pour qu'il t'enseigne sur le mariage? Parce que les mêmes personnes qui criaient au début, on s'est marié et qui dansaient dans la salle de 200 personnes, 2 ans après, ce sont ces personnes-là qui divorcent. Comment ils ont fait pour enregistrer le mariage, pour organiser le mariage de l'année et pour divorcer au bout de 2 ans? C'est qu'il y a des choses qu'ils n'avaient pas compris et ils ont abusé de l'appareil. Car lorsqu'on ne connaît pas le but d'une chose, l'abus est inévitable. Lorsqu'on ne connaît pas la raison pour laquelle une chose a été créée, on risque de mal l'utiliser. Et si tu vas te marier, quelque chose d'aussi important, si tu vas te marier sans avoir pris le temps d'être instruit dans la parole de Dieu en ce qui concerne le mariage, je t'assure, tu vas avoir des problèmes. Personne n'est plus sage que Dieu. Personne. Amen. On avance. Aujourd'hui, dans nos églises, on voit de plus en plus de gens qui vivent en concubinage. Je parlais il n'y a pas longtemps avec un couple. Ils ne sont pas mariés, ils vivent ensemble. Ils sont chrétiens. Pourquoi vous ne vous mariez pas? Ils répondent, c'est trop cher. C'est compliqué pour organiser le mariage, tout ça. On veut se marier, hein? Mais non seulement il y a les problèmes de famille, mais en plus moi je ne travaille pas, donc il faut que je prenne le temps d'économiser pour me marier. Mais tout ce temps-là que tu prends le temps d'économiser, là, pourquoi tu vis avec la fille de l'autre? Laisse-la vivre chez ses parents tranquillement. Oh, mais c'est compliqué, ses parents ceci, ses parents cela, donc on n'a pas le choix, on vit ensemble. Vous n'avez pas le choix. Et des couples comme ça, il y en a beaucoup dans l'église. Je vous assure. J'ai expérimenté quelque chose qui m'a marqué. Je sais pas, au bout, après 3 ans, j'en parle toujours. C'est qu'on était dans une église avec ma femme. On était allé visiter une église. L'église faisait à peu près 250 personnes à Libreville. Hein, à Libreville, s'il vous plaît. Et le pasteur était en train d'enseigner sur le sujet de l'amour. Et le pasteur, au bout d'un moment, il se met à parler de mariage et de couple. Et à un moment, il fait... Je pense qu'il a été conduit par le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit lui montre l'état de l'Église dont il a la charge. Il dit, est-ce que tous les couples mariés peuvent se lever? Tous les couples mariés peuvent se lever. Il y a 2 couples qui se lèvent. 4 personnes qui se lèvent. Plus moi et ma femme. Tout le reste de l'Église est resté assis. J'ai regardé ma femme et puis j'ai dit, est-ce que tu te rends compte de la gravité de la situation? Alors, soit... tout ce monde-là est célibataire, mais célibataire. Soit tu as beaucoup de personnes qui sont en concubinage sérieux ici. Et à mon avis, c'est la deuxième option qui est la vérité. Et ça n'allait pas. Je l'ai dit, j'ai dit à ma femme à l'oreille, j'ai dit, tu vois, Dieu vient de lui montrer le sujet sur lequel il doit se mettre à enseigner sérieusement dans les mois qui vont suivre là. Parce que ça ne va vraiment pas dans son église. Ah oui, et ça ne blague pas. Et dans l'église aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui vivent en concubinage. Et les gens, le plus souvent, quand ils vivent comme ça, c'est parce que tout simplement, il y a un laisser-aller. Il y a un laisser-aller, un, deux, ils ne sont pas enseignés. Et aujourd'hui, notre rôle, nous en tant que serviteurs de Dieu, c'est de revenir au plan originel de Dieu et d'enseigner l'Église sur les choses concernant le mariage. Est-ce qu'on peut dire avec moi le mariage? Le sujet du mariage et des relations hommes et femmes reste encore un sujet délicat à aborder. Très délicat. Pourquoi beaucoup de pasteurs n'abordent pas ce sujet dans les églises? Parce que pour pouvoir te tenir devant les gens et enseigner sur ce sujet-là, il faut que toi-même, un minimum, tu vives ce que tu dis. Ah oui, hein? Sinon, tu vas venir raconter des choses, mais Dieu va te confondre sur la chair. Hein? Moi, personnellement, moi et mon épouse, on n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Assurez-vous, on n'est pas parfait. Nous aussi, on a encore beaucoup de choses à apprendre avec le Seigneur. Mais après 8 ans de mariage, on s'est suffisamment cassé les dents. Hein? On s'est suffisamment cassé les dents pour comprendre qu'il y a des erreurs qu'il ne faut pas recommencer. Il y a des gens que Dieu va instruire parce qu'ils ont la sagesse de s'asseoir et d'écouter en toute humilité. Il y a d'autres gens qui sont entêtés et têtus et Dieu permet qu'ils aillent se casser la figure pour comprendre. Hein? Moi, je suis quelqu'un, quand je suis venu dans le Seigneur, j'étais fort, j'étais très, très têtu. Voir, je frôlais l'arrogance. Et ça, pour m'en défaire, c'était compliqué. Dieu avait un problème avec moi. Parce que quelqu'un comme ça, il peut être un instrument merveilleux entre les mains du Seigneur, mais s'il ne change pas son caractère, il va se casser les dents, ce petit-là. Et je me suis cassé les dents. Hein. Ça fait mal. Hein. Ça fait très mal. Mais c'est comme ça que Dieu enseigne. Et parfois, Dieu permet que tu passes par certaines situations pour être la personne la mieux placée pour enseigner ça aux autres. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, tu es là dans ta situation. Tu vas te marier, tu vas vivre des choses, mais tu ne sais pas que certaines situations que tu vis aujourd'hui, tu as l'impression qu'elles sont difficiles. Mais en fait, Dieu permet que tu passes par ces situations pour t'éprouver dans ton caractère, pour que demain tu sois un exemple pour les plus jeunes. Amen. Gloire à Dieu, on avance. Et non seulement on trouve des gens dans l'église qui sont en concubinage, mais on trouve aussi des gens qui ont déjà été mariés et qui ont divorcé. Et pourtant, la Bible nous dit clairement qu'on n'a pas le droit de divorcer, non? La Bible ne dit pas qu'on n'a pas le droit de divorcer. Non, ce n'est pas ça. La Bible nous dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Que personne ne sépare, ne brise l'alliance que Dieu a conclue entre deux personnes. Même les personnes concernées n'ont pas le droit de le faire. Enfin, n'ont pas le droit de le faire, mais elles peuvent le faire. Elles n'ont pas le droit, mais elles peuvent le faire. Et malheureusement, on en trouve beaucoup dans l'Église qui le font. Amen. Ils le font pour différentes raisons, valables et non valables les unes des autres. Mais pourtant, c'est quelque chose qui attriste le cœur de Dieu. Et on en trouve aussi beaucoup, et c'est pour cela que l'on doit s'arrêter sur le sujet. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi gloire à Dieu? Donc, si le mariage est si mal vécu par tant de couples qu'il ne donne plus envie, il ne donne plus envie aux gens, les gens, ça ne leur fait plus rien. C'est-à-dire, quand on regarde, je parlais avec quelqu'un, il me disait, moi, ma fiancée, elle est de l'ethnie Fan. J'ai dit, alors, où est le problème? Il me dit, tu sais que chez les Fans, quand on veut épouser la femme, il faut se préparer. Hein? Parce que là-bas, ils vont te saigner. Donc, je préfère rester là où je suis. J'ai dit, c'est pas une raison ça. Tu dois te marier. Dieu veut que tu te maries. Et tant que tu restes comme ça, il y a des bénédictions et des grâces que tu ne pourras pas connaître dans ta vie. Ça, c'est sûr et certain. « Oh, mais c'est compliqué. » J'ai dit non. Ça, ce sont des excuses que tu donnes. Et quand on regarde dans l'église, les aînés ne donnent pas l'exemple, chrétien ou non chrétien. Aujourd'hui, en Afrique, pour parler de l'Afrique, là où nous sommes, beaucoup de gens qui sont mariés ne donnent pas l'exemple. Nos parents ne nous donnent pas l'exemple. Mon père, personnellement, n'a pas donné l'exemple. Beaucoup de vos parents, vous qui êtes là, ne donnent pas l'exemple. Tantôt, il y en a un, il a mille et une femmes. On ne sait pas où il allait chercher ça, d'avoir mille et une femmes. Oh, c'est... Une chose m'a choqué dernièrement avec ma femme, quand on est parti à la mairie assister à un couple qui se mariait. Et puis, on est allé deux fois et le maire demande, pose une question au marié. Choisissez-vous la monogamie ou la polygamie? J'ai dit, oh, mais comment on peut poser une question comme ça? Il est en train d'épouser quelqu'un. En fait, on lui donne... Elle veut savoir s'il va choisir la polygamie. Donc, c'est un droit qu'on a inscrit dans la constitution du pays d'être polygame. Ça, c'est un mensonge du diable. On va revenir sur ça demain. Et je sens que je vais tirer sur des gens demain. Ça va être grave. Ça va être quelque chose. Parce que ça, j'ai vu tellement de dégâts autour de moi à cause de ces choses-là que là, en plus, c'est enregistré. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont écouter ça. Donc, il faut qu'ils entendent la vérité. Donc, il est temps qu'on parle de mariage. Il est temps que l'on règle les problèmes des couples. Et je déclare au nom de Jésus-Christ qu'à cause de la révélation de la parole que tu auras dans ta vie, ton couple sera heureux et sera un témoignage à la gloire de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, réussir son mariage avec Dieu, c'est possible. Réussir son mariage avec Dieu. Est-ce qu'on peut dire avec moi la réussite?
La réussite.
La réussite. C'est quoi réussir? C'est un mot aujourd'hui que l'on trouve partout. C'est quoi réussir? C'est quoi la véritable réussite aux yeux de Dieu? Qu'est-ce que c'est que réussir? Réussir son mariage avec Dieu. La manière dont on a formulé le thème, c'est assez audacieux. Mettre ça sur Facebook ou bien passer ça à la radio, c'est assez audacieux. Il dit, mais ah bon, toi tu sais comment on réussit le mariage? Tu vas venir enseigner aux gens comment on réussit le mariage. J'ai dit, oui, je sais, mais comment tu sais ça? Mais parce que je lis la Bible. Je prends simplement ce qui est dans la Bible et puis je l'applique à ma vie. Et comme moi je vois que vous vous échouez, ben, je veux vous donner ce qui est dans la Bible. Tout ce qu'on va dire ici aujourd'hui, on n'a rien inventé. On n'a rien inventé, on va juste donner ce qu'on lit tous les jours dans la parole et qu'on applique dans nos vies. Amen. La réussite, on parle de véritable réussite. Hein? On parle de véritable réussite quand on est dans le plan de Dieu pour sa vie. Quand on est dans le plan de Dieu pour sa vie. On parle de réussite quand Dieu dit de toi à la fin de ta vie, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. On parle de véritable réussite quand ce sont d'autres personnes qui rendent témoignage que ta vie est pour eux une source de bénédiction. On parle aussi de véritable réussite quand tous les domaines de ta vie sont comblés, dont le mariage. On parle de réussite dans le mariage quand ton mariage est en phase avec le plan de Dieu pour ton couple. Quand tu découvres ce que Dieu veut pour ton foyer et que tu l'appliques à ton foyer, alors tu réussiras. Amen. On dit que ton mariage est réussi quand il ne s'agit plus seulement de ton bonheur à toi, mais quand ton mariage est une source de bonheur et de bénédiction pour les autres. Lorsque les gens te regardent et peuvent dire, ah, ce couple-là, on a envie d'être comme eux. Ils ont tout compris. Regarde, ils sont épanouis, ils réussissent, Dieu, ils ont la faveur de Dieu sur leur vie. Et ce couple-là, on a envie d'être comme eux. À partir du moment où tu deviens une source de bénédiction pour les nations, tu commences à expérimenter la véritable réussite. Amen. On parle de réussite quand notre potentiel, le potentiel que Dieu a déposé en nous, est libéré dans notre vie. Il y a un passage très important qui, pour moi, est le passage le plus important de toute la Bible. C'est le verset que tu dois lire tous les jours. Ce passage-là est extrêmement important parce que c'est là le commencement de toute chose. Genèse 1, au verset 26, il est écrit ceci. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Est-ce qu'on peut dire avec moi, soyez féconds?
Soyez féconds.
Multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. La première parole qu'on adresse à une personne lorsqu'on la rencontre pour la première fois est une parole qui est très importante. C'est une parole qui va déterminer la relation que tu vas avoir avec cette personne. Est une parole qui va déterminer l'image ou encore l'impression que tu vas lui donner. Dieu crée l'homme. Dieu le crée d'abord esprit. Dis avec moi, je suis un esprit. Tu n'es pas un homme charnel. Tu es un esprit qui habite dans un corps et qui a une âme. Et lorsque Dieu crée l'homme, il crée deux genres d'hommes avec un grand H. Il crée l'homme, homme, le mâle, et il crée la femme qu'on appelle la femelle ou encore la femelle. Les deux sont des mâles, mots. Les deux sont des mâles. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui porte le fœtus pour porter la vie. C'est pour ça qu'on l'appelle femelle, femelle. Est-ce qu'on me suit? Amen. Les deux ont été créés esprit. Les deux ont été créés esprit ou au ciel. Lorsque la Bible dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, Dieu créa l'homme à son image. Le mot créa ici est un mot hébreu que l'on prononce bara, B-A-R-A. Qui veut dire créer à partir de rien. Dieu crée pendant les 5 premiers jours toute la création. Et lorsqu'il crée les poissons, il parle à la mer. Lorsqu'il crée les étoiles, il parle au ciel. Que l'étendue des cieux suscite des étoiles dans tout le ciel, produise des luminaires de toutes sortes, que la mer produise des poissons, que la terre produise des végétaux et des animaux. Et le sixième jour, Dieu dit, maintenant je vais me parler à moi-même, je vais créer une créature très spéciale. Cette créature sera faite à mon image et selon ma ressemblance, et je vais l'appeler homme, ou encore en hébreu, Ish. Amen. Et lorsque Dieu crée cet homme, esprit, il lui adresse une parole. Il le crée esprit et il lui adresse une parole. Et cette parole est la parole qui va, comment dire, conduire toute sa destinée. La toute première parole que Dieu donne à l'homme, c'est « Sois fécond ». Et c'est la parole qu'il a donnée à tous les animaux qu'il a créés les cinq premiers jours. Les animaux se sont multipliés aussi. Les végétaux se sont aussi multipliés. Ils ont été aussi féconds. Et Dieu voit l'homme le sixième jour et lui dit aussi « Sois fécond ». Est-ce qu'on peut dire avec moi « Sois fécond » ? Le mot « fécond » ici vient d'un mot hébreu que l'on prononce « porte du fruit ». Est-ce qu'on peut dire avec moi « porte du fruit » ? C'est pour cela que les Anglais, quand tu prends la Bible en anglais, les Anglais ont mieux traduit ça, ils ont traduit par « be fruitful », « sois fructueux », « porte du fruit ». Porte du fruit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai déposé en toi un certain nombre de trésors, de choses et de dons et de potentiels que je t'invite à libérer. Amen. On a eu ici un séminaire de deux jours sur le thème de libérer votre potentiel. Pour ceux qui veulent en savoir plus, ils prennent le CD. Mais le but de Dieu, l'objectif principal de Dieu, c'est que tu libères ce que tu as en toi. Amen. Et Dieu, ensuite, lorsqu'il crée l'homme et la femme, pour votre information, ont été créés en même temps. Mais ils ont été manifestés sur la terre en différé. Hein? La première personne qui a été manifestée sur la terre, c'est l'homme. Dieu prend la poussière de la terre et met l'esprit de l'homme à l'intérieur, souffle dans ses narines et il devient une âme vivante et lui confie la garde du jardin d'Éden. Et qu'est-ce qui se passe? L'homme commence à travailler. L'homme commence à travailler. L'homme commence à être productif. Ok? Gloire à Dieu. L'homme commence à être productif. L'homme commence à s'épanouir. Mais Dieu se rend compte qu'il y a quelque chose qui le préoccupe. Et ça, on va y venir tout à l'heure. Il y a quelque chose qui le préoccupe. Et la véritable réussite, parce que c'est la priorité de Dieu, parce que c'est ce que Dieu veut à tout prix pour l'homme, il va tout faire pour qu'il réussisse. Et c'est la raison pour laquelle il suscite la femme. Est-ce qu'une femme peut dire avec moi « Amen » ? Et ça, vous allez mieux le comprendre tout à l'heure. Il ne faut pas confondre réussite et succès. Un succès, c'est une victoire temporaire. La réussite, c'est la victoire permanente tout au long de ta vie. Amen. Donc, que tu traverses des conflits conjugaux, que tu traverses des conflits conjugaux, des problèmes avec ton fiancé ou avec ta femme ou ton conjoint, tu as juste à comprendre la clé, tu as juste à comprendre ce que Dieu veut, le plan de Dieu pour ton mariage et obéir à ce qu'il a dit là et tu réussiras. Est-ce qu'on me suit? La réussite. Réussir son mariage, c'est possible. Être heureux dans le mariage, c'est possible. Être épanoui dans le mariage, c'est possible. Mais la réussite dans le mariage ne dépend pas de ta capacité à choisir la personne qu'il te faut ou de la famille dont tu es issu ou du nom que tu portes. La réussite, ta réussite dans le mariage dépend de la découverte du plan de Dieu pour ton foyer. Amen. C'est très important de comprendre ça. Parce que pourquoi? Les problèmes et les conflits conjugaux viendront dans le mariage. Ça viendra. Tu ne peux pas empêcher la pluie de tomber. Tu ne peux pas empêcher le soleil de briller. Tu ne peux pas empêcher la pluie de tomber même sur le non-croyant. La Bible dit que la pluie tombe sur le bon et le méchant. Par contre, tu peux prendre un imperméable et te protéger. Les problèmes viendront. Jésus-Christ a dit, le vent et la tempête vont souffler, mais celui qui construira sa maison sur ma parole, sa maison tiendra ferme et ne s'ébranlera pas. Mais celui qui n'écoutera pas ma parole et ne l'appliquera pas à sa vie, sa maison s'effondrera. Tu te maries, tu veux te marier, vous êtes fiancé, et ou bien tu désires te marier, assure-toi avant de comprendre le plan de Dieu pour ta vie concernant le mariage, de l'appliquer à ta vie et tu prospéreras. Gloire à Dieu. La réussite dans le mariage n'est pas souhaitée, mais elle est forgée. Elle est forgée par quoi? Elle est forgée premièrement par l'amour divin entre les conjoints. Elle est forgée par l'amour divin entre les conjoints et Dieu. Et elle est forgée par l'obéissance aux principes bibliques sur le mariage et les relations entre époux. Et l'amour divin, c'est quelque chose de très important. Amen. Donc, chaque accomplissement dans la vie, tous les rêves qu'on a pour notre vie personnelle, pour notre couple et pour notre foyer, est le fruit de l'obéissance à des principes. Si tu découvres les principes, quel que soit le domaine de ta vie, tu as juste à trouver les principes qu'il faut et les appliquer à ta vie et tu réussiras. Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans les affaires, quel que soit le domaine, trouve les principes. Parce que Jésus-Christ dit à Pierre, je te donnerai quoi? Les clés du royaume. Je te donnerai les clés du royaume et sur toi je bâtirai mon église. Et le séjour de mort ne prévaudra point contre elle. Trouve les principes, trouve les clés, applique-les à ton couple et tu prospéreras dans ton mariage. Amen. Et ça, c'est ce qu'on va voir plus tard. Donc, au lieu de passer ton temps à prier pour un certain nombre de choses, trouve les principes, trouve les clés et applique-les à ta vie. Le mariage, quand on s'y intéresse, on se rend compte qu'il ne se limite pas juste à l'union de deux personnes. Ce n'est pas juste deux personnes qui vont se retrouver devant le maire ou bien devant le pasteur à l'église et puis on dit c'est fini, on est marié et on va obligatoirement réussir. Car sans la compréhension du plan de Dieu pour son mariage, quelle que soit la démarche qu'on peut entreprendre, si Dieu n'est pas dans le mariage avec nous, alors cela ne servira à rien. On ne prospérera pas. C'est ce que j'appelle un prérequis. Est-ce qu'on peut dire avec moi le prérequis? Ecclésiaste nous dit, chapitre 4, au verset 12, un passage très important. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. La corde à trois fils. Est-ce qu'on peut dire avec moi la corde à trois fils? La Bible nous dit, Genèse 1, verset 1, au commencement Dieu. Au commencement de toute chose, Dieu. Quel que soit ce que tu veux entreprendre, et c'est là qu'on voit les véritables adorateurs, c'est là qu'on voit les passionnés de Dieu, c'est là qu'on voit ceux qui marchent avec Dieu. Romains 8, 14 nous dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Les fils de Dieu, ce sont ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. Ils ne se précipitent pas quand ils décident. Et quand tu rencontres quelqu'un, ton cœur commence à battre pour cette personne et tu dis, pourquoi ne pas commencer à construire une relation amoureuse avec cette personne? Ne va pas trop vite. Va d'abord voir le Saint-Esprit et tu alignes tous les critères souhaités et tu demandes au Saint-Esprit de te montrer si chaque critère, la personne la correspond. Parce que Dieu, tu dois le faire savoir très tôt. Dès le commencement, tu dois le faire savoir à ton partenaire que moi, c'est Dieu. J'insiste sur ça. Parce que il y en a beaucoup qui démarrent des relations avec quelqu'un, mais qui ne prennent pas le temps de mettre Dieu tout de suite entre eux. On est juste amoureux et puis on se laisse aller. Non, ça ne marche pas comme ça. La corde à trois fils, est-ce qu'on peut dire avec moi la corde à trois fils? Quel que soit ce que tu veux bâtir, et pour parler du couple, du mariage, Dieu doit être compris dans le mariage. Et c'est pour cela que Salomon parle de la corde à trois fils. Le premier fil, c'est l'homme. Le deuxième, c'est la femme. Le troisième, c'est Dieu. Si un des fils peine à tenir, il y aura toujours un troisième fil qui sera là pour tenir la corde. Le jour où tu mets de côté le troisième fil, la corde va se briser, obligatoirement. On n'a pas besoin d'enseigner longtemps là-dessus pour le savoir. Et c'est très important d'inclure Dieu dans tout ce qu'on fait, dans toutes les démarches, dans les rendez-vous, les premiers rendez-vous qu'on commence à avoir avec son partenaire, là où il nous invite, les paroles qu'il nous adresse. Je vais vous raconter une histoire. Moi, la première fois que j'ai invité mon épouse, je ne sais pas si tu te rappelles, la première fois que j'ai invité mon épouse au restaurant, on était à Paris et on était allé manger sur les Champs-Élysées, s'il vous plaît. Hein? Non, mais il faut bien faire les choses. Il faut bien faire les choses. Hein? Sur les Champs-Élysées. Hein? Oui, pardonner, comme dit l'autre. Donc, on est allé manger. C'était après le culte. Hein? Je l'avais invité à manger, puis on est allé manger dans un restaurant sur les Champs-Élysées. Et pendant qu'on était en train de discuter, la table n'était pas très grande. La table n'était pas très grande, donc on était assez proches. Et pendant qu'on était en train de parler, dans la discussion, j'ai mis ma main sur son bras. Et puis elle fait comme ça. Je fais, ah, excusez. Elle fait, non, c'est... Je te rappelle. Non. On touche pas. Donc tout de suite, j'ai vu, aïe, ça c'est... Il va falloir que je me prépare, sérieusement. Elle me faisait comprendre que Dieu est au milieu là, il est avec nous là sur la table. Commence pas à faire des choses bizarres. Hein? Tiens-toi correctement. Hein? Si tu es un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, tiens-toi correctement. Et parfois les femmes sont là aussi pour reprendre leur homme aussi. Qu'une femme dise amen avec moi.
Amen.
Le mariage est un mystère. Donc, pour en connaître les secrets et réussir dans le mariage, il faut marcher avec Dieu. Éphésiens 5, verset 31. Nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Le mot mystère ici est un mot grec que l'on prononce mysterion, qui veut dire une connaissance réservée à une élite, des personnes choisies. Un secret caché que seul Dieu connaît. Quelque chose de difficile à comprendre. C'est ce que veut dire ce mot mystère derrière. Et quand Paul nous dit ici, ce mystère est grand. De quel mystère parle-t-il? Il parle du fait que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une personne appelée sa femme et les deux deviendront une seule chair. Quand tu vois un couple venir face à toi, sache que ces deux personnes-là sont une seule chair. Une seule chair que tu ne peux pas séparer. Et ça, c'est un mystère spirituel. Et il faut avoir la révélation de Dieu pour comprendre ça. Et s'il est concerné, le mari et la femme ne comprennent pas ça, ils risquent de faire de grosses erreurs. Ils risquent d'abuser de leur mariage. Ils risquent de rater leur mariage et de faire des erreurs qui peuvent leur être fatales. Est-ce qu'on me suit? Gloire à Dieu. Et parce que ce mystère est grand, parce que ce mystère, pour le comprendre, on a besoin de révélation. Alors il faut s'intéresser, il faut aller voir le fabricant, il faut aller voir Dieu et dire à Dieu, Dieu, révèle-moi ta parole concernant le mariage. Jésus-Christ nous dit dans Matthieu 13 au verset 11, c'est un passage que j'aime beaucoup, on l'a enseigné ici. Matthieu 13 au verset 11, il dit, il vous a été donné de connaître quoi? Les mystères cachés du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Quand vous lisez ce passage en entier, Jésus-Christ était devant la foule en train de raconter la parabole du semeur. Vous connaissez? Et il racontait la parabole du semeur et après il termine la parabole en disant que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. En fait, quand Jésus-Christ dit ça, en fait, à chaque fois que tu vois Jésus-Christ dire que celui qui a des oreilles entende pour entendre, ça veut dire qu'en face, personne n'avait compris ce qu'il avait dit. Donc, il faut que tu t'arrêtes et que tu dises, bon, Saint-Esprit, explique-moi parce que je ne comprends pas. Et quand on lit l'histoire de ce passage, juste après cette parole, Jésus entre dans la maison et les disciples le suivent. Et les disciples lui demandent, Seigneur, pourquoi leur parles-tu tout le temps en parabole? Parce que c'est vrai qu'eux, ils ne sont pas tes disciples, c'est la foule. Mais pourquoi est-ce que tu leur parles en parabole? Pourquoi tu ne leur parles pas normalement? Il dit, parce que il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné à eux. Donc l'église que nous sommes privilégiés. Dans le monde, les païens aussi se marient. Les gens aussi se marient dehors. Mais quand tu es non-croyant et que tu te maries, certes, tu obéis à un principe. Tu es en règle devant Dieu parce que tu as obéi à ce principe concernant le mariage. Mais il y a des joies concernant le mariage que tu n'arriveras pas à expérimenter tant que tu ne rentres pas dans la révélation de la parole de Dieu concernant le mariage. Les païens se marient, mais il y a des bénédictions dans le couple, dans le mariage, dans le foyer, qu'ils ne pourront jamais expérimenter parce que tout simplement ils ont renié la foi. C'est aussi simple que ça. Ils vivront leur mariage. C'est pour ça qu'il y a des païens qui vont te dire, mais nous on vit notre mariage et on est très heureux. Mais c'est quoi être heureux pour toi? je ne sais pas, mais c'est quoi être heureux? Même on est très heureux. On est très heureux. Tu es très heureux. Tu es très heureux, mais ton amour est limité à l'amour qu'on appelle philéo. Il y a trois types d'amour dans la Bible. Il y a l'amour eros, qui est l'amour sexuel de la chair. Il y a l'amour philéo, qui est l'amour de l'âme. Donc, un amour qui est changeant. Et puis, il y a l'amour agapao, l'amour divin. Et il n'y a que ceux qui sont en alliance avec Christ qui peuvent entrer dans cette dimension de l'amour-là. Amen. Toute personne qui n'est pas en Christ ne peut pas expérimenter l'amour agapao. Quand vous voyez des païens qui disent « J'ai aimé cette femme jusqu'à mourir », ce n'est pas l'amour divin, ça. Ça, c'est l'amour philéo. C'est que leurs âmes sont tellement attachées qu'ils ne peuvent plus se désunir. Mais l'amour divin, c'est une dimension où Dieu nous amène à comprendre que la relation que j'ai avec mon conjoint, c'est la relation que Christ a avec son Église. Et quand tu comprends ce mystère-là, concernant Christ et l'Église, chaque fois que l'homme que tu es, tu regardes ta femme, le Saint-Esprit te dit, la femme que tu vois là assise au salon là, c'est l'Église. Tu dois en prendre soin. C'est ton Église. C'est ta première Église. C'est pour cela que j'ai aimé un pasteur qui a dit un jour, mon premier ministère, c'est mon foyer. Mon premier ministère, c'est mon foyer. Parce que si ça ne va pas à la maison, ça ne sert à rien que je vienne enseigner à l'Église. C'est pour cela que j'ai aimé aussi un autre pasteur qui a dit, il y a des pasteurs qui ont divorcé, mais ils continuent à tenir le ministère. Comment est-ce que tu peux tenir une église alors que tu as divorcé? Comment est-ce que tu pourras enseigner les choses concernant le mariage à une église qui est remplie au ras-bord alors que toi-même tu as divorcé? Tu peux pas. Parce que les gens vont te regarder, ils vont dire, mais toi tu es venu nous enseigner sur réussir son mariage avec Dieu, mais tu as divorcé, frère. Donc tu n'es pas qualifié. Donc, c'est un sujet tabou pour le pasteur en question. Est-ce qu'on me suit? Donc, c'est très important de comprendre qu'il n'y a que nous, en Christ, qui pouvons recevoir la révélation du Saint-Esprit concernant le mariage. Et pour cette première session-là, on va, on va poser les fondements. Parce qu'avant de rentrer en profondeur sur le sujet du mariage, on va d'abord poser les fondements. Est-ce qu'on peut dire avec moi les fondements? Les fondements. Le premier fondement que l'on doit avoir concernant le mariage avant d'aller plus loin, c'est que Dieu a créé le mariage pour un but. Dieu a créé le mariage pour un but. Proverbe 16, au verset 4, Salomon nous dit, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Quand tu veux utiliser une chose efficacement, je l'ai dit tout à l'heure, tu dois connaître le but pour lequel la chose a été créée. Tu veux te marier, tu dois connaître le but pour lequel le mariage a été créé. Et Dieu a créé le mariage dans le but, écoutez bien, dans le but d'aider l'homme à réaliser le but pour lequel il a été créé. Quel est le but pour lequel l'homme a été créé? Genèse 1, 26. Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. L'homme est appelé sur la terre à dominer. Pas à dominer un autre homme, mais à dominer à titre individuel et même à titre de communauté dans un domaine bien précis. Chacun d'entre nous, nous avons un appel sur notre vie. Chacun d'entre nous. C'est d'ailleurs pour cela qu'on est si différents. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des passions que tu as, que ton voisin n'a pas. Hein? Hier, je disais encore à un frère que, génial, nous sommes rentrés dans le mois de juin. Dans quelques jours, c'est la Coupe du Monde. On va regarder la Coupe du Monde. On va faire des rendez-vous en soirée pour regarder les matchs importants. Il m'a fait, moi, j'aime pas le football. Ça ne me dit rien du tout. Donc. J'ai dit, c'est quand même un rendez-vous international. Il me dit, ça ne me dit rien du tout. Football, franchement. Ok, je vois 22 personnes courir après un ballon rond, franchement. Vraiment. Hein? Donc, ça ne me dit rien du tout. Et puis, on les paye pour je ne sais pas combien de millions de dollars juste parce qu'ils courent après un ballon. Enfin, je ne sais pas. Ça ne me dit rien du tout. Il dit, tu n'as rien compris. Donc, laisse tomber. Hein? Donc, chacun d'entre nous, on a un appel sur notre vie. On a été créé pour un but bien précis. Et l'homme a été créé pour un but. Et le but de Dieu pour l'homme, ce n'est pas le mariage. Le but de Dieu pour l'homme, c'est sa destinée. C'est qu'il atteigne sa destinée. Adam a été créé pour une tâche bien précise. Et il a été manifesté le premier. Et lorsqu'il a été manifesté le premier, bien qu'il ait été créé en même temps avec la femme, on se rend compte que la femme a un rôle très important à jouer dans la réalisation de ce but. Ah, quand tu vas comprendre le rôle et la place de la femme à côté de toi, ah, tu vas devenir dangereux. Tu vas te rendre compte que la personne qui est à côté de toi, la femme, là, elle est très dangereuse. Qu'une femme me dise Amen.
Amen.
L'homme a reçu un ordre direct de Dieu de manifester son potentiel. L'homme a reçu l'ordre de Dieu de libérer ce qui était en lui. L'homme a reçu l'ordre de Dieu de dominer. Sauf que Dieu regarde l'homme en train de travailler dans le jardin. Dieu l'observe. Et c'est là que Dieu commence à t'enseigner sur le process pour pouvoir reconnaître ton conjoint. Dieu regarde l'homme. Il observe. Dieu t'observe. Et il se rend compte que l'homme est préoccupé par quelque chose. Je vais te dire une chose très importante. Il y a des soupirs que tu pousses dans ton cœur, même si tu ne les dis pas à voix haute, Dieu les entend. Il y a des désirs que tu as, tu veux te marier, mais tu n'en parles pas. Mais Dieu le sait. Tu cherches quelqu'un qui va t'accompagner sur le chemin de ta destinée. Dieu le sait. Tu cherches quelqu'un pour t'aider à bâtir ta vie, ton ministère. Dieu le sait, même si tu n'en parles à personne. Dieu regarde l'homme. Genèse 2, au verset 19. Dieu regarde l'homme et Dieu, en l'observant, fait une déclaration. Est-ce qu'on peut dire avec moi une déclaration? C'est Dieu qui déclare. Ce n'est pas l'homme. Dieu déclare une chose. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Regardez bien, je continue le verset. Dieu se rend compte que ce jeune homme est en train de chercher une aide. Mais juste après, Dieu ne lui envoie pas l'aide dont il a besoin. Dieu lui envoie les animaux. Peut-être que tu as tendance à passer le passage là vite. Et tu dois savoir que les animaux ont un rôle très important dans le processus de reconnaissance de ton conjoint. Tu vas voir, on va y arriver. Allons-y. Alléluia. Même Dieu dit, ok. Lui aussi, il a dit Amen. Donc, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi mais? Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Je vous ai dit qu'il cherchait quelque chose, non? Dieu se rend compte que ce petit-là, il cherche quelque chose. Il lui envoie les animaux. Et puis, il se rend compte qu'il n'est toujours pas satisfait. Et pendant que Dieu lui envoie les animaux, il nomme les animaux. Et après avoir nommé les animaux, il se rend compte que le petit n'est toujours pas satisfait. Est-ce qu'on peut dire avec moi les animaux?
Les animaux.
Adam cherchait quelqu'un. Le verset continue en disant, « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. » L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, il fait une déclaration maintenant. Voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Est-ce qu'on peut dire avec moi, Adam cherchait quelqu'un? Pour bien comprendre le but du mariage, il est important de comprendre ce passage. Parce que, ici, Dieu nous révèle que l'apparition de la femme répondait à un besoin de l'homme. La femme que Dieu met sur ton chemin, elle doit répondre à un besoin. Ah. Ça, cette chose-là, quand on va enseigner, parce qu'à l'église, on est en train de mettre un programme qu'on a appelé le processus d'accompagnement et de préparation au mariage pour les célibataires, qui va se faire en deux sessions, mariage 101 et mariage 201 pour les mariés. Et ces choses-là, on va rentrer en détail là-dedans. Comment tu fais pour reconnaître ton conjoint? Et Dieu nous montre ici comment. Dieu nous révèle que l'apparition de la femme répondait à un besoin qui préoccupait l'homme. Et Dieu lui envoie les animaux. C'est Dieu qui, en observant l'homme, en observant son comportement, se rend compte que ce gars-là a un problème. Il a quelque chose qui le rend insatisfait. Et Dieu dit, je vais lui créer, je vais lui donner une aide semblable. Quelqu'un qui va non seulement résoudre son problème de préoccupation, mais qui va l'aider à continuer à faire le travail que je lui ai demandé de faire. Est-ce qu'on peut dire avec moi une aide? Sauf que Dieu n'envoie pas l'aide. Dieu envoie les animaux. Les animaux ici, c'est qui? Les animaux représentent des personnes. Les animaux représentent des personnes. Si Dieu fait exprès d'emmener les animaux vers l'homme, alors qu'il cherche une aide, c'est parce que Dieu veut s'assurer de quelque chose. Dieu veut s'assurer de quelque chose. Et là, il dit que Dieu regarda comment il les nomma. Je ne sais pas comment je vais dire ça, mais le jour où j'ai compris ça, ça m'a fait quelque chose dans mon esprit. Chercher quelqu'un avec qui se mettre, c'est tout à fait normal. Mais dans quel but? Tu veux te marier, Dieu demande pourquoi. Tu veux te marier maintenant, mais qu'est-ce que ça va t'apporter? La raison pour laquelle Adam voulait une aide, c'était pour atteindre sa destinée. Adam s'était rendu compte en cours de chemin qu'il ne pourrait pas réaliser le mandat que Dieu lui a donné sans avoir la personne qu'il fallait à côté de lui. Tu peux monter, descendre. La femme que Dieu a mis à côté de toi, l'homme que Dieu a mis à côté de toi, cette personne-là est très importante pour ta vie. C'est pour cela que tu peux dire tout ce que tu veux sur cette personne quand tu es en colère, mais cette personne-là, si tu oses commettre l'erreur, alors que vous êtes marié avec une alliance, te séparer de cette personne, alors que Dieu t'avait dit au début que c'était cette personne-là qui devait être ton conjoint, ta destinée est foutue. Et il n'en reste qu'à la miséricorde de Dieu pour pouvoir rester debout. Il y a des gens qui se divorcent. Il y a des gens qui se séparent de leur conjoint. Après le divorce, il y a une vie. Mais c'est difficile de se relever après un divorce. C'est possible de se relever. C'est possible de réussir. Mais c'est très difficile. Il faut vraiment être très déterminé et être très fort. Parce que le divorce, c'est quelque chose qui fait très très mal. Et ce que Dieu ne veut pas, c'est que tu divorces. Dieu ne veut pas que tu divorces. Dieu veut que lorsque tu te marieras, lorsque tu trouveras la personne, lorsque tu trouveras cette aide-là, il veut s'assurer que tu aies choisi la bonne personne, que tu t'entendes bien avec cette personne, que tu sois en communion parfaite avec cette personne et que tu réussisses. Amen. Dieu lui envoie les animaux. Je vais vous dire la raison pour laquelle Dieu envoie les animaux à Adam. Dieu envoie les animaux à Adam pour voir si ce petit-là se connaissait. Adam est né dans le jardin, dans la forêt. Il a toujours été seul. Il a grandi avec qui? Les animaux. Donc, ce que Dieu soupçonnait, c'est que ce petit se prenne pour un animal. Dieu voulait s'assurer qu'il savait bien qu'il était un homme et qu'il n'était pas Tarzan. Et Dieu lui envoie les animaux. Et Adam regarde les animaux venir vers lui. Il regarde l'animal. Toi, tu vas t'appeler singe. Toi, tu vas t'appeler serpent. Toi, tu vas t'appeler colombe. Toi, tu vas t'appeler lion. Toi, tu vas t'appeler éléphant. Le processus de reconnaissance de ton conjoint, quand tu es encore célibataire, il y a un test que Dieu met sur ta route, un test capital que tu ne dois pas rater. C'est le test du nommage. C'est l'étape du nommage. Est-ce qu'on peut dire avec moi le nommage? Il y a des gens dans ta vie que tu vas rencontrer. Parfois, tu as l'impression que ton cœur bat pour eux. Vous n'avez pas vu qu'il y a des animaux qui sont très attachants? Le chien est très attachant. Hein? La colombe est un animal très attachant. Mais tu n'es pas de la même espèce que la colombe. Tu n'es pas de la même espèce que le chien. Il y a des gens, au moment où ils font leur testament, ils donnent même leur fortune au chien. Il y a un problème. Il y a des gens, pire encore, qui s'accouplent avec des animaux. Il y a un problème. Dieu voulait s'assurer que l'homme savait qui il était. Le problème que certaines personnes rencontrent aujourd'hui dans leur couple, c'est tout simplement parce qu'ils ont raté l'étape du nommage. Dieu leur a dit, voici les animaux, nomme-les. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont épousés. Il y en a par exemple, ils ont épousé des lions. Lui, c'est quelqu'un de calme. Il trouve la personne, mais ce n'est pas la personne de sa vie. Et le Saint-Esprit lui dit, ce n'est pas la femme de ta vie. Mais il force. Et il se marie. Et arrivé dans le foyer, chérie, fais-moi la table, s'il te plaît. Tu dis quoi? C'est qui commande ici? C'est moi qui commande ici. Il a épousé un lion. Il y en a. Ils ont épousé des vipères. Il rentre à la maison. Lui, il se dit qu'il arrive dans son cocon familial où il a la paix, la tranquillité. Tu étais où? Tu viens d'où? Hein? Tu viens d'où? Avec les yeux qui transpercent là. Et puis quand elle te parle, c'est comme un venin qu'elle te crache. Tu as épousé la mauvaise personne et puis tu dis, oh Seigneur, le diable est dans ma maison. Le diable n'est pas dans ta maison. Tu as juste épousé la mauvaise espèce. Il y a des femmes, elles rêvent toujours d'avoir un homme, un serviteur de Dieu. Un homme calme, un homme posé, un homme qui est à la maison, casanier, un homme qui s'occupe des enfants, qui joue avec les enfants. Elle va et elle rate l'étape du mariage parce qu'elle se précipite dans l'étape de reconnaissance de son conjoint et elle va épouser un chimpanzé. Celui qui va de branche en branche. Celui qui est toujours en voyage. Celui qui est toujours de maison en maison, de femme en femme. Elle a épousé le singe. Le chimpanzé. Faut pas rater l'étape du nomage. Faut pas rater cette étape. Il y en a. Eux, c'est des léopards. Il va vite. Il va vite. Au lieu d'épouser un autre léopard comme lui de la même espèce, il va épouser la tortue. Dieu envoie la tortue, c'est-à-dire quelqu'un qui est de caractère flegmatique. Lui, il est de caractère colérique, donc il va très vite. Et il a besoin, certes, de quelqu'un pour le temporiser, mais le problème, c'est que quand vous mettez un colérique avec un flegmatique, en général, c'est compliqué. Parce que le flegmatique, il est d'une lenteur qui énerve le colérique. C'est pour ça, un jour, je vais vous parler ici des quatre personnalités. Ça, les colériques, les sanguins, les flegmatiques et les mélancoliques, ils ont tous leurs particularités. Tu dois connaître ces choses-là-haut. Ce sont des choses qu'on enseigne en ressources humaines, en management, en entreprise. Connaître les caractères des gens, les personnalités des gens. Il y en a, ils sont colériques, mais on les accouple avec des gens qui sont hyper lents. Ça les énerve. Mais dépêche-toi. Oh, tu n'as pas marqué des couples. Le mari est toujours en train d'avancer vite. Mais toi aussi, dépêche-toi, on avance. Oh, dépêche-toi. Il est toujours devant. Elle est toujours derrière avec les enfants. Il va trop vite. Et ça, quand vous voyez quelque chose comme ça, ça reflète simplement l'état d'esprit dans la maison. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on peut dire avec moi le nommage? Donc, Adam devait reconnaître quelqu'un. Adam devait reconnaître sa femme. Et quand Dieu envoie les animaux, Dieu était simplement en train d'observer le test. Voir si ce petit allait réussir le test. Il nomme, et il se rend compte après qu'il n'a pas trouvé l'aide semblable. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu l'endort. Dieu l'endort et Dieu prend sa côte. Dieu ne prend pas un os à ses pieds. Hein, parce qu'il y en a, pour eux, la femme doit toujours être en dessous. Non, Dieu prend la côte pour te montrer que la femme est à côté. Elle n'est pas en bas, elle est à côté. Donc, tu n'es pas là pour la dominer. Donc, nous, dans notre culture, on a parlé pendant 5 semaines ici de la culture du royaume. Dans la culture du royaume de Dieu, les femmes sont à côté. Dans la culture du monde, le plus souvent, particulièrement dans certaines religions, on écrase les femmes. On écrase les femmes. C'est un mensonge du diable. Et la femme à côté de l'homme, elle est dangereuse. Quand vous étudiez le sujet de la femme dans la Bible, vous n'avez pas vu que dans la moitié du livre de l'Apocalypse, on voit Satan, le diable, le serpent ancien qui pourchasse une femme. Il pourchasse pas un homme, hein, il pourchasse la femme. Tout à l'heure, je vais le dire, mais vous n'avez pas remarqué que quand Adam et Ève ont péché, Dieu dit une parole au serpent, au diable, il dit, cette femme-là, je mettrai une inimitié entre elle et toi, et elle t'écrasera la tête. Jésus-Christ dit aussi dans le livre de Luc que Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, non? L'homme a reçu aussi ce mandat-là. Mais la femme a reçu quelque chose en plus. La femme a reçu le mandat de marcher sur la tête. Les deux peuvent détruire, mais elle, c'est elle qui écrase la tête. Elle est dangereuse, la femme. Est-ce qu'une femme peut dire amen et acclamer le Seigneur? Donc, quand tu cherches ton conjoint, tu cherches une aide semblable. Tu cherches quelqu'un qui va t'aider à atteindre ta destinée. Tu cherches quelqu'un qui va t'aider à avancer. Et c'est pour cela que tu dois prendre le temps d'étudier cette personne. Quand vous êtes ensemble, hommes et femmes, vous vous étudiez. C'est à ça que sert l'étape des fréquentations. On ne se précipite pas dans les fiançailles. Dans l'étape des fréquentations, on ne se touche pas. On ne se fait pas de bisous. On ne se dit pas que je t'aime. On ne s'appelle pas à 3 heures du matin. Etc, etc. Des choses qui peuvent nous amener à nous attacher dans l'âme. On fait très attention. Parce que quand tu t'attaches au niveau de l'âme à quelqu'un, c'est difficile de t'en séparer après. Tu risques par certaines actions de t'attacher à quelqu'un qui n'est pas la bonne personne. Et quand le vin de l'amour arrive, c'est fini, tu ne vois plus rien. Particulièrement chez les femmes. Il faut faire très attention. Est-ce qu'on peut dire avec moi l'étape du nommage? Une femme, par exemple, qui grandit sans son père. Il y en a beaucoup comme ça ici. Une femme qui grandit sans son père. Une femme qui grandit sans avoir grandi avec une autorité à côté d'elle. Vous remarquerez que ce genre de femme, c'est le genre de femme qui ont besoin d'avoir à côté d'elle quelqu'un d'autoritaire. Parce qu'elles n'ont pas grandi avec l'autorité. Et elles cherchent quelqu'un d'autoritaire. Elle, elle est plutôt de nature calme. Et comme elle cherche quelqu'un d'autoritaire, à cause des blessures émotionnelles qu'elle a depuis enfant, chaque fois que Dieu lui envoie quelqu'un, Dieu dit, voici l'homme que je t'envoie, c'est l'homme de ta destinée. Mais cet homme est plutôt de caractère calme. C'est un homme posé. C'est un homme qui réfléchit. C'est un homme qui analyse avant de s'engager, etc., etc. Elle a dit non, ça c'est pas la bonne personne. Moi je cherche quelqu'un qui a le caractère. Je cherche un homme avec qui je marche. Hein? Et puis, quand elle trouve un homme qui vient, oui, chérie, monte là, dépêche-toi, on y va. Elle vient. Quand elle va en soirée avec lui, elle voit le gars, il gonfle. Il salue les gens. Il est quelqu'un d'important, il a la position sociale. Alors que l'homme de sa destinée que Dieu lui avait envoyé, il n'avait pas de travail pour le moment, malheureusement pour lui. Hein? Mais elle ne savait pas que cet homme-là allait devenir quelqu'un d'important demain. Elle allait chercher quelque chose de rapide. Donc celui qui serre les mains, celui qui parle fort. Dès qu'il arrive en soirée, oh ça va. Dès qu'il arrive, oh DG, 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 etc. C'est ça qu'elle aime, elle aime. Elle aime le gars qui, tu vois. Sauf que ce gars-là, c'est un lion. Le roi de la jungle. Celui qui commande tout le monde. Fais ci, fais ça, tais-toi. Il demande à manger et il ne dit même pas s'il te plaît. Il ne dit pas merci. Tu es où quand il appelle? Oh, dépêche-toi là, rentre vite à la maison. Oh, la ménageur va partir, dépêche-toi. Oh, moi je suis encore au bureau jusqu'à 23h. Je dois voyager, fais ci, prépare-moi des chemises, etc. Il commande tout le monde. Et quand elle arrive dans le mariage, le gars ne s'est jamais comporté comme ça. Et le jour où il se comporte comme ça, elle dit, mais qui j'ai épousé en fait? Tu as épousé un gars dangereux qui n'est pas de la même espèce que toi. Et c'est pour cela que Dieu voulait s'assurer que Adam, qui avait vécu toute sa vie avec les animaux, il était fort possible que Adam ait été blessé par les animaux. Parce que quand tu joues avec un gorille, il risque de te faire très mal. Il risque de te blesser. Les gens qu'on a autour, les animaux sont les gens avec qui on grandit. La famille, nos frères, nos sœurs, nos amis, nos collègues de travail, les parents, etc. Et toutes ces relations-là au cours de la vie nous blessent. On grandit avec parfois des handicaps, des blessures émotionnelles. Et c'est pour cela qu'avant de t'engager dans le mariage, tu dois t'assurer qu'il n'y a pas de vide à combler. Tu dois t'assurer qu'il n'y a pas de blessures à guérir. Il y a des gens qui disent, oui, j'ai trouvé celle qui me complète. Faux. La femme ne vient pas pour compléter l'homme. L'homme est déjà complet. Elle ne vient juste répondre à un besoin. Et elle aussi, si elle n'est pas complète, elle risque de venir embrouiller tout le monde dans le foyer. Si elle a grandi avec des blessures émotionnelles, le gars, il a travaillé sa vie et il va épouser la personne. Pourtant, Dieu lui dit que c'est la femme de ta destinée, mais parce qu'elle, elle n'est pas prête et parce que lui, il n'est pas suffisamment patient pour attendre, il se marie, même si c'est la femme de sa destinée, ils auront des problèmes dans la maison. Parce qu'elle, émotionnellement, ça ne va pas. Et ça peut détruire leur couple. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, gloire à Dieu? Et c'est pour cela que Dieu dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Regardez une chose. Lorsque l'homme a manifesté le besoin d'avoir une aide, c'est Dieu qui fait une déclaration. Hein? C'est Dieu qui dit, il n'est pas bon que cet homme-là soit seul. Dieu endort l'homme. Quand il endort l'homme, l'homme est dans un état de sommeil. Cet état de sommeil-là, quand on lit la Bible, chaque mot est important. Cet état de sommeil-là reflète simplement un état spirituel dans lequel tu ne maîtrises rien. C'est Dieu qui maîtrise la chose. Tu es là, tu es seul aujourd'hui, tu es célibataire. Tu te dis, mais Seigneur, pourtant j'ai tout ce qu'il faut. Mais pourquoi la femme ne vient pas? Parce que tout simplement, ce n'est pas toi qui maîtrises la chose. Toi, tu dois te concentrer sur ta destinée. Et il arrivera un temps dans ta vie, d'un point de vue spirituel, où tu vas te rendre compte que tu seras tellement concentré que tu ne te préoccuperas plus du tout de cette femme-là. Et tout d'un coup, Dieu va ramener cette femme sur ton chemin. Tu vas te réveiller comme Adam se réveille. Et quand il se réveille, il dit, oh, je me suis endormi. Et quand il ouvre les yeux, il fait, oh, voici enfin. Vous savez, quand on lit ça, il n'a pas dit, voici enfin celle qui est os de mes os. Et chair de ma chair. Regardez. Hein. Regardez bien. C'est voici cette fois celle qui ose de mes os et chair de ma chair. Il y a quoi après? Point d'exclamation. Ça veut dire qu'il avait oh, voici enfin celle. Quand l'homme. Et quand il a trouvé. Là, c'est plus Dieu. Dieu s'écarte. Il te dit oh. C'est lui qui fait la déclaration. Tu approches. Un homme t'approche, il doit te faire la déclaration. Ne te mets jamais, je parle aux femmes, ne vous mettez jamais avec un homme qui ne vous a pas fait une déclaration. Parce qu'il faut qu'il déclare. Ce n'est pas le pasteur qui doit déclarer. Ça, c'est l'homme que tu dois épouser. Il y a eu trop de dégâts dans ces choses-là. Ce n'est pas au pasteur de déclarer, ce n'est pas à tes parents de dire, le gars est bien, tu as vu où il travaille? Va avec lui. C'est le fils de tel. Oh, toi aussi. Oh, va, c'est un bon garçon. Non, pourtant, il n'a fait aucune déclaration. Malheureusement, de nos jours, on rencontre de plus en plus de femmes, elles ne laissent même pas à l'homme le temps de faire la déclaration, c'est elle qui fait la déclaration. Oh, tu veux l'épouser? Hein? Ils sont ensemble depuis peu de temps, et puis non, tout d'un coup, un jour, il commence à appeler chéri. Il dit, oh, tu es juste maintenant ton chéri. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Depuis quand je suis ton chéri maintenant? Mais tu es mon chéri, non? Hein? Non, ce n'est pas ton chéri. Il n'a pas fait de déclaration. Si tu t'amuses en tant que femme à faire la déclaration trop vite alors qu'il ne l'a pas fait, tu risques de te mettre, si en plus lui il est broke, il se laisse faire aussi, tu risques de te mettre avec quelqu'un qui certainement n'était pas prêt pour le mariage, bien qu'il soit l'homme de ta vie. Parce que les hommes, il y a des hommes parfois ils aiment prendre leur temps, ils n'ont pas envie de se presser. Et quand l'homme te fait comprendre qu'il veut prendre son temps, ne va pas vite, il n'est pas prêt. Et quand tu vois qu'il tarde trop, une femme de valeur, citoyenne du royaume des cieux, assise dans la parole de Dieu en Christ, elle doit être capable de dire à l'homme, écoute, homme, Adam, va réfléchir, et puis quand tu seras prêt, tu viens me retrouver, me voir, d'accord? Au lieu de te laisser faire par un homme qui te tourne en bourrique. Oui, mais je veux l'épouser depuis là, on attend, mais il ne se décide pas. Mais laisse-le! Il ne veut pas. Vraiment. Il ne veut pas. Il faut qu'il dise, voici enfin. Il faut qu'il, un jour dans un restaurant, il te regarde yeux dans les yeux et il te dise, chérie, est-ce que tu veux m'épouser? Je t'aime. Je dis bien, je t'aime. Je t'aime. Parce qu'il y a des hommes dans notre pays, ils ne savent pas dire je t'aime. Il y a des femmes... Elles sont avec l'homme depuis des années. Jamais il lui a dit je t'aime. Ah! Il dort. Quand il rentre le soir dans la chambre, il s'assoit sur son lit. Il est dans son short. Il sort son ordinateur. Oui, il y a quoi? Mais chérie, viens, on passe un peu du temps ensemble. Ah, oh, toi aussi, j'ai du boulot là. Oh. Ah! Je t'aime. Dis-lui je t'aime. Tu la regardes, tu dis bébé, je t'aime. Est-ce que je vais faire ma vie avec toi? Note bien. Parce qu'il faut qu'il te dise ça. S'il ne te dit pas ça, ne va pas te mettre avec lui. Quel qu'il soit. Je vais faire ma vie avec toi. Je veux t'épouser. Je veux que tu sois la mère de mes enfants. Je veux que tu sois mon époux. Je veux que tu sois mon aide semblable. Je veux que tu marches avec moi. Je veux qu'on fasse le ministère ensemble. Tu es tout pour moi, chérie. Hein? Sans toi, je ne suis rien. Ah, mais tu as Jésus quand même. Non? Oui, j'ai Jésus, mais sans toi quand même. Hein, ma chérie? L'homme, moi, demandez à ma femme, quand on se prend la tête, elle et moi, ça nous arrive de nous prendre la tête, on n'est pas d'accord sur quelque chose. Quand je sors, et puis je suis là, je lui dis, tu vois, tu m'irrites là. Elle dit, mais c'est toi qui t'irrites tout seul? Pourquoi tu t'irrites? L'amour ne s'irrite pas. 1 Corinthiens 13, pourquoi tu t'irrites? Elle te sort la Bible en plus. Hein? Hein? Et puis moi, quand je sors, ma journée est foutue. Ma journée est foutue. Je ne peux plus réfléchir, en fait. Et puis elle aussi, comme elle a un caractère aussi qui est compliqué, elle peut rester toute la journée. Et puis c'est toujours moi qui vais revenir. Bon, c'est bon. Parce que moi, je suis bloqué, en fait. Mais comme elle a plus de résistance que moi, moi, je suis bloqué. Et puis j'ai dit, tu vois, tu as du mal à venir toujours demander des excuses, etc. J'ai pas du mal à demander des excuses, faut te calmer, c'est tout. C'est tout. Mais moi, je sais que je suis bloqué, mes prières sont bloquées, mon inspiration est bloquée, je peux plus lire. Parce que tout simplement, quand tu es là au bureau, tu n'arrêtes pas de penser à elle, elle m'énerve. Oh, elle m'énerve. Tu vois, mais tu n'arrêtes pas de penser à elle, parce que vous êtes une seule chair. Elle t'a dit une parole, qui t'a cassé le matin, et puis tu es énervé. Tu pars au boulot, mais celle-là, elle se prend pour qui? Elle se prend pour ta femme. Amen. Donc, ne rate pas l'étape du nommage. Sois sûr de te mettre avec la bonne personne. Et assure-toi que ce soit lui qui fasse la déclaration. Ne pousse jamais un homme qui ne t'a pas fait de déclaration d'amour. Ce n'est pas parce qu'on est en Afrique. Si l'homme que tu vas épouser ne t'a jamais dit « je t'aime », je t'assure, ce n'est pas devant le maire à l'Amérique qui va te dire « je t'aime » devant tout le monde. C'est un menteur. Il vient juste jouer les importants là devant les gens. Je t'aime. Mais quand vous étiez ensemble, il ne t'a jamais dit ça. C'est devant l'hôtel. Puis toi, tu vas. Il me dit je t'aime devant les gens. Tu n'avais rien dit. Là, il est en train de te mentir. Arrivé à la maison, il va. C'est fini ça. On est rentré dans une autre phase. Il y a deux choses à savoir au moment de la rencontre. C'est ce que je viens de dire. La première chose, c'est que c'est l'homme qui doit faire sa déclaration. Et la deuxième chose, il dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et il dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils seront tous les deux une seule chair. C'est ce que la Bible nous dit. C'est à lui de quitter. C'est à lui de quitter, ce n'est pas à toi de quitter. C'est lui qui vient te chercher. Amen. C'est lui qui vient te chercher. C'est lui qui fait la déclaration et c'est lui qui vient voir les parents. C'est lui qui vient faire, il y a deux déclarations, la déclaration que tu fais à la mère, à ton épouse, et la déclaration que tu viens faire aux parents. Je vais te dire une chose, parmi les parents, les deux, le plus important, c'est le papa. Assure-toi d'avoir l'accord du papa. Les mamans, maman, papa, je vais vous présenter la nouvelle, mon futur fiancé, j'aimerais vous présenter quelqu'un. Vous n'avez pas remarqué que les mères font, il est beau, il est comment? Il vient d'où? Il est de quelle famille? Hein? Ça, c'est souvent les questions que les mamans posent. Le père, il travaille où? Il fait quoi dans la vie? Je vais vous dire pourquoi les pères posent toujours cette question-là. Vous n'avez pas remarqué que lorsque vous vous mariez, l'homme, l'époux, se tient à l'autel en premier. Et il est à l'autel et il attend. Et les gens sont là. Et puis on dit, maintenant on va tous applaudir la reine, la princesse, c'est tout ce que vous voulez. Et puis elle rentre. Pour ceux qui sont traditionnels, ils vont mettre pam 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 pam. Maintenant, mais de nos jours contemporains, il y a des femmes maintenant qui mettent des trucs boum boum, elles rentrent maintenant avec la musique et tout. Et quand elle arrive à l'hôtel, vous n'avez pas remarqué qu'elle est toujours accompagnée de quelqu'un? Cette personne, c'est qui? C'est son père ou du moins c'est quelqu'un qui représente l'autorité paternelle. Et quand il arrive, regardez bien la position qu'il adopte avec elle, il la tient comme ça. Il l'amène à l'hôtel. Et quand il l'amène à l'hôtel, il fait une symbolique, il fait quelque chose de très important. Il prend la main de sa fille et il la met dans la main du futur époux. Vous savez pourquoi le père, lorsqu'on vient lui présenter le jeune homme, il pose toujours, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Parce que tout simplement, celui qui pose la question, c'est celui qui a toujours pris soin de la fille. Il l'a toujours nourrie. Il l'a toujours soignée quand elle était malade. Il en a pris soin. Et c'est pour cela qu'elle te plaît aujourd'hui, jeune homme, cette jeune fille-là. Et cette jeune fille-là, je me suis sacrifié pour elle. J'ai payé cher pour qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui. J'ai payé ses études. Je me suis saigné financièrement et tout ce que tu veux. Je l'ai porté. Je l'ai porté. Et quand l'homme vit, quand le père vient et donne la main à l'époux, à l'autel, il est en train de dire, désormais, je ne suis plus son père. C'est toi son père. C'est toi maintenant qui dois la porter. C'est pour cela que le papa demandera toujours, où est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il pourra prendre soin de toi, ce garçon-là? C'est pour cela que lorsque aujourd'hui tu es seul, il y a des garçons qui t'approchent. La réaction naturelle que tu dois avoir, c'est de ne pas te dire, oh, tu t'intéresses à moi, génial, on va se mettre ensemble à manger où, etc. Non. Lorsqu'un garçon t'approche, je m'adresse encore aux femmes, le garçon t'approche, il commence à te jeter les regards du coin de la salle, à la sortie du culte. Il te regarde, il te fait comprendre qu'il s'intéresse à toi, tu vois. Laisse-le venir, laisse-le venir. Quand il vient, voici quelque chose que tu fais. Quand il bonjour, est-ce qu'on peut manger ensemble, toi et moi? Hein? Est-ce qu'on peut se voir? Je te trouve assez intéressante et puis j'aimerais qu'on puisse juste faire connaissance, toi et moi. Ne commence pas à beaucoup parler parce que les femmes aiment trop parler. Elle est contente là où tu la vas dans son cœur. Elle est contente parce qu'on s'intéresse à elle. Mais la réaction naturelle que tu dois avoir, c'est celle qui rendrait fier ton père, naturel. C'est tu tournes un peu sur le côté et puis tu le regardes et puis tu dis, est-ce que tu peux me porter? Tu peux me porter? Parce que moi, il y a un père qui m'a porté. Toi, tu es un garçon qui a grandi au PK12. Tu t'intéresses à la fille qui a grandi à la Sablière. Elle n'a pas le même environnement que toi. Elle a grandi dans un environnement où on l'a toujours traitée comme une princesse. Elle a roulé dans un certain type de voiture. Elle a logé dans un certain type d'hôtel. Elle a mangé dans un certain type de restaurant. Je t'assure, elle peut dire tout ce qu'elle veut, que par amour, elle va tout abandonner pour toi. C'est faux. Elle a grandi dedans. Toi, quand tu te mets avec elle, assure-toi que tu pourras continuer à faire ça. Parce que si tu te mets avec quelqu'un comme ça, au début, ce sera cool. Elle va te dire, non, c'est pas grave, on est ensemble. Tu vas te rendre compte qu'arriver dans le mariage, ah, chérie, ah, avant, je mangeais dans le restaurant là. Mais emmène-moi dans le restaurant aussi, toi aussi. Oh, vraiment? Tu m'emmènes manger dans les trucs là. Mais il n'y a pas l'argent, non? Mais toi aussi, trouve l'argent. Oh, c'est toi l'homme de la maison, non? Trouve l'argent. Si tu ne peux pas l'apporter, ne va pas chercher les problèmes. Si tu n'es pas prêt, va d'abord travailler, prospère, assieds-toi et ensuite va te présenter au papa. Parce que si son papa, c'est ministre de tel, la fille a fait études à Harvard, elle est intelligente, elle arrive, elle travaille, elle gagne 2,5 millions par mois. Toi, tu cherches du boulot. Et puis vous croisez un boulot. Tu veux t'approcher. Mais elle va te dire, mais lui c'est qui? Vraiment, mais vraiment. Oui, bonjour madame. Non, laissez-moi, s'il vous plaît, monsieur, écartez-vous, s'il vous plaît. Tu n'es pas son genre. Ce genre de personne ne marche pas avec. Vous n'avez pas remarqué que les stars se marient entre stars, les sportifs se marient entre sportifs. Donc, si tu t'intéresses à ce genre de personne, assure-toi que tu pourras la porter. Assure-toi que tu pourras continuer à faire ce que son papa a commencé. Amen. Un jour, on rentrait de l'église avec mon épouse. On était à Paris. C'était en plein hiver. On rentrait et j'avais pas de voiture. Et elle est marchée dans la neige avec ses talons. Et puis, une exaspération monte avec l'onction. Et puis, surtout, achète-toi une voiture, vraiment. Oh, vraiment. Achète-toi une voiture. Oh. J'en ai marre de marcher avec mes talons, là. Moi aussi, je suis la fille de quelqu'un, quand même. J'ai dit, OK, je vais acheter la voiture. Marie! On a acheté la voiture, rassurez-vous. On a acheté la voiture. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux me porter? Si vous êtes déjà marié et qui n'arrive pas à faire ce qu'il faisait avant lorsque vous étiez fiancé, quand vous allez rentrer à la maison, tu dis, bon, chérie, on est marié. Le pasteur a dit qu'il faut que tu me portes. Désormais, on ne va plus là-bas, on ne va plus là-bas. Tu vas, tu te prépares et on mange maintenant dans un certain type de restaurant. Une fois, j'étais en ville et puis ma femme m'appelle à midi. Et puis elle dit, tu veux venir manger avec nous? Je suis avec Kayla. On est dans un restaurant à Louis. J'ai dit, à Louis? Dans un restaurant? Vous faites quoi à Louis dans un restaurant? Non, moi aujourd'hui, on voulait changer. On voulait manger dans un restaurant qui est bien. Parce que franchement, tu sais que moi, j'aime manger que dans les bons restaurants. Moi, j'aime les bonnes choses. Il faut aimer les bonnes choses. Oh. Ce n'est pas mauvais. C'est pour ça que ma fille, elle a tellement de manières, parce qu'elle s'appelle Princesse, c'est son deuxième prénom. Donc tout le temps, on l'appelle Princesse, elle regarde que les choses de princesse, on l'habille comme une princesse. Je t'assure que le gars qui va venir vers elle demain, il faut que ce soit un prince. Hein. Si ce n'est pas un prince, il peut aller voir ailleurs. Hein. Ah oui, en tout cas, il va devoir vraiment bosser pour venir s'asseoir devant moi pour prendre ma fille. Hein. Ah, je lui dis, hein. Ah ça. Parce que ma fille, là, le travail que je suis en train de faire avec elle spirituellement et en termes d'éducation, ce ne sera pas un gigolo qui va venir prendre ça. Hein. Quoi? Oh non. La petite, en plus, elle est jolie comme quoi? Attends. Donc je la surveille, ding, 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 ding. Dès que quelqu'un va commencer à tourner, s'il te plaît, va d'abord travailler, parce que elle c'est une perle, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pas n'importe qui, hein, parce qu'il y a des pas. Même le fait de laisser partir ta fille avec un autre garçon, c'est pas une bonne chose. Pas une bonne chose, parce que ta fille c'est un trésor. C'est un trésor. Tu as tellement investi en elle, tellement. Donc le gars qui vient, faut qu'il soit capable de la porter, faut qu'il soit digne. On chante pour Jésus, digne est l'agneau. Il faut qu'on dise, digne es-tu ton nom. De prendre la fille là. Gloire à Dieu. On va terminer. Le deuxième fondement, Dieu veut que tu réussisses ton mariage. La Bible nous montre dans Jean 2. Jean 2, la Bible nous montre quelque chose de très important. Je vais essayer d'aller vite là-dessus pour qu'on finisse. Ah. La Bible nous dit que Jean 2, au verset 1, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Dieu veut que tu réussisses ton mariage, parce que ton mariage est quelque chose qui compte beaucoup pour lui. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut ainsi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Et contenant chacun 2 ou 3 mesures, Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases !» Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté, l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier miracle que fit Jésus. Il quoi ? Manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Je vais te dire une chose. S'il y a bien un endroit où Dieu est prêt à manifester sa gloire comme auparavant, c'est dans ton mariage. Ça, c'est sûr. Jésus-Christ dit à Marie, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas venue. » Vous voulez savoir la personne qui a déclenché le ministère de Jésus? C'est sa mère. Jésus n'était pas encore prêt à rentrer dans le ministère, à commencer à manifester des miracles. Mais c'est elle, par son attitude, qui l'a obligé. Et quand il dit, « Que me veux-tu? Mon heure n'est pas venue. » Regardez ce qu'elle fait. Elle lui tourne au dos et puis elle dit, « Faites ce qu'il vous dira. » Tu racontes quoi, Jésus? Tu ne vois pas que c'est un mariage? Parce qu'à l'époque des Juifs, quand vous lisez l'histoire de la tradition juive, à un mariage, quand le vin venait à manquer, c'était une honte pour les époux. Et Dieu, je t'assure, il ne s'intéresse pas qu'à ton ministère. Dieu s'intéresse même aux petites choses. Dieu veut qu'à ton mariage, son nom soit glorifié. Il veut qu'à ton mariage, les gens disent, ah oui, ça c'est un mariage. Ça, c'est des époux. Oui, on est fiers d'eux. C'est pas on est là, on soupire, on dit vraiment, qui l'a dit d'aller avec le garçon là? Oh, elle aussi, vraiment. Le gars là, il a une histoire dans la ville. Qu'est-ce qu'il a fait avec nous? Non, il ne faut pas qu'on dise ça de ton mariage. Et Dieu s'intéresse tellement à ton mariage. Dieu veut tellement que tu réussisses ton mariage qu'il est même prêt à faire en sorte qu'il ne manque pas de vin. Je vais vous raconter une petite anecdote racontée par un pasteur qui m'avait beaucoup marqué. Une femme était à un mariage, c'était à la soirée. Et puis à la soirée, elle est là debout avec les invités, il y a la musique, tout le monde est en train de danser. Et puis, c'est la partie du gâteau, on amène le gâteau. Et puis le traiteur met le gâteau en devant tout le monde en plein milieu de la salle, et puis pendant ce temps la musique est en train de finir, les gens sont en train d'applaudir. Le traiteur laisse la table avec le gâteau dessus et puis il s'en va. Et pendant qu'ils sont tous là en train de l'acclamer, les parents viennent faire la bise à la mariée, etc., elle entend la voix du Saint-Esprit qui lui dit, ton gâteau va tomber, va le repousser. Elle entend la voix du Saint-Esprit et elle est intriguée. Elle a cette pensée forte là qui vient à l'esprit. Ton gâteau va tomber. Va dire au traiteur de bien arranger le gâteau. Et puis elle ignore l'instruction. Et puis elle continue. Au bout de 2 minutes, quand on dit, bon, les mariés vont s'approcher pour couper le gâteau, elle vient avec son chéri, tout ça. Et au moment où ils mettent la main, vroom, tout le gâteau tombe par terre. Tout le monde est là. Oh oh. Il y a un autre gâteau pour remplacer. Non, on ne va pas manger le gâteau qui est tombé par terre. Hein. Ça, c'est sûr. Ça fait quelque chose. Et puis, ça l'avait tellement attristé. Son mari était en train de lui dire, mais chérie, c'est bon, c'est qu'un gâteau. Mais non, tout ce sujet est gâteau. On a dépensé 300 000 francs pour le gâteau, là. Oh. Mais c'est bon, c'est pas grave. Mais si, c'est grave, tout ce sujet. Devant les invités, le gâteau tombe. C'est un signe. C'est un signe, vous voyez, un sort. Parce que la sorcellerie, ça, comment vous voyez? Non, le gâteau juste est tombé. Et puis, elle était tellement attristée qu'elle va voir son père spirituel, le pasteur de son église. Elle va le voir à côté, dans le coin, et puis il la console un peu. Et puis elle lui dit, mais pasteur, tout à l'heure, j'ai eu une forte pensée. C'est comme si on dirait, Dieu m'avait dit que le gâteau allait tomber. Et puis elle dit, pasteur, papa, Dieu s'intéresse aussi au gâteau au mariage. Il dit, mais ma fille, Dieu s'intéresse à tous les détails. Parce qu'il sait que ça peut te faire honte. Et c'est pour ça qu'il t'a alerté, parce qu'il savait que ça allait faire quelque chose dans ton mari, devant tes invités. Et Dieu veut que tu réussisses et il s'intéresse à ton mariage dans les moindres détails. Même la préparation du mariage, Dieu s'intéresse à tout. Est-ce qu'on peut dire amen?
Amen.
Dieu veut que tu réussisses ton mariage. Et pourquoi Jésus-Christ a manifesté sa gloire, son premier miracle dans un mariage, je vais vous dire pourquoi. Parce que tout simplement, Jésus-Christ était en train d'envoyer un signal à Satan. Parce que l'ennemi du mariage, l'ennemi du foyer numéro 1, c'est le diable. Vous remarquerez dans le passage qu'on a lu en Genèse que c'est au moment où Dieu célèbre le premier mariage entre Adam et Ève, dès qu'Adam dit « Voici celle qui sera ma femme », juste après, Satan apparaît, le serpent. Le diable est quelqu'un qui n'aime pas ce qui est bon. Dès que Dieu dit « Je vous unis par les liens du mariage », sache que l'ennemi est déjà à ta porte, prêt à trouver le moyen de détruire ton mariage. Et je vais te dire pourquoi Satan veut détruire les mariages. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui rencontrent des conflits dans leur couple, qui rencontrent des difficultés. Et ils se disent que c'est à cause du caractère de mon conjoint. Il est comme ci, comme ça. Sache que ce n'est pas ton conjoint. Sache que c'est Satan qui est derrière. Parce que Satan voudra à tout prix détruire ton mariage. Tu veux savoir pourquoi? Parce que Adam, l'homme, a reçu un mandat, celui de dominer et de détruire les œuvres du diable. Et la femme a été mise à ses côtés pour l'aider dans cette mission. Et Satan sait que s'il y a bien une institution à laquelle il ne peut, qu'il ne peut pas toucher et qui est hyper dangereuse pour son royaume, c'est des époux qui sont unis. Et Satan voudra détruire tous les couples et tous les foyers. Les couples, les foyers sont la base de la société. Si Satan détruit les foyers, toute la société va mal. Tout ce qui est bon, tout ce qui témoigne de la gloire de Dieu, dans un couple, dans un mariage, Satan voudra le détruire. Satan ne supporte pas de voir un couple qui est en paix, uni et heureux et épanoui. Parce que je vous assure une chose, il y a une clé du royaume que Jésus-Christ nous a révélée dans Matthieu 18 au verset 19, lorsque deux personnes s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, le Père Céleste leur donne. Lorsqu'un homme et une femme se lèvent dans la prière, commencent à prier, s'unissent dans la prière et commencent à demander quelque chose, Dieu ne peut pas leur refuser. Dieu ne peut pas. C'est une parole qu'il a déclarée. Il n'y a pas très longtemps, on avait un gros souci avec mon épouse. On avait un gros souci. Et c'était un souci qui me préoccupait beaucoup. Et ça me fatiguait. Et ma femme avait remarqué que ça me fatiguait, ça me préoccupait, ça me fatiguait. Et elle se rendait compte que ça commençait à me détourner en fait de l'essentiel. Tellement ça me préoccupait. Elle a commencé un jour à me dire, dans la nuit, Luc, on doit maintenant se réveiller la nuit à 4, on va prier. J'ai dit, ok, on va prier. En bon serviteur de Dieu, il faut prier 3h du matin, 4h, mais j'étais fatigué. Et puis, c'est, maintenant, Rubik, réveille-toi, on va prier. Et on s'unit dans la prière. Un jour, on a fait pendant une semaine 2 heures de prière toutes les nuits. Et puis, on prenait autorité. On déclarait, on disait même le nom de la personne concernée.
Cette personne-là, elle ne trouve pas le sommeil au nom de Jésus tant qu'elle n'a pas donné ce qu'elle doit donner. Une semaine après, j'ai reçu un mail. Le problème était réglé. Et c'était parce qu'on avait prié. Lorsqu'un homme et une femme sont unis, ils sont dangereux pour le royaume des ténèbres. Ils sont très dangereux. C'est pour cela que Satan voudra toujours détruire les couples. La femme est parmi les deux l'être le plus vulnérable. Je vais vous dire pourquoi. La femme, pourquoi Satan passe par la femme le plus souvent? Parce que la femme a ce que j'appelle une faiblesse. C'est d'être distraite très facilement. Quand Ève était en train de faire ses courses dans le jardin d'Éden, elle faisait le shopping, c'est là qu'il la distrait. Elle faisait le shopping, hein. Elle se baladait et elle prenait les fruits. Et Adam n'était pas loin. Et c'est là qu'il l'atteint. La femme, par son rôle de mère au foyer et d'épouse, elle passe beaucoup plus de temps à la maison. Et parce qu'elle passe beaucoup plus de temps à la maison, et pour beaucoup de femmes qui ne travaillent pas, elle passe tellement de temps à la maison qu'elle se laisse rapidement et facilement laisser aller à la distraction. La télévision, la oisiveté, comme on dit. Elle est facilement distraite. Et c'est dans ces moments de distraction-là que Satan vient lui parler. Et c'est comme ça que tu rentres à la maison fatigué, et puis tu trouves que ta femme est bizarre. Elle commence à te sortir des paroles. Tu dis, mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu as pris ce matin ou quoi? C'est quoi? Mais en fait, elle était là, assise, elle s'ennuie, elle gère les enfants. Et Satan vient lui souffler à l'oreille. Mais qui t'a dit que c'est toi qui dois gérer les enfants? Lui aussi, il peut s'occuper des enfants. Il est tout le temps au travail. Et puis, tu rentres, mais toi, tu es tout le temps au travail, il y en a marre aussi. C'est Satan. Tu es là, tu ne comprends pas, il y a une dispute qui éclate entre vous, alors que vous n'avez pas l'habitude de vous disputer. Satan n'a pas changé de technique. Chaque fois qu'il verra un couple heureux, il voudra par tous les moyens le détruire. Et je peux vous annoncer une bonne nouvelle. Satan n'a aucune puissance contre les couples. Il n'a aucune puissance. Aucune. Pour la simple et bonne raison qu'il est vaincu. Par contre, il a un atout, c'est la ruse. Et il utilise toujours la ruse pour pouvoir monter ta femme contre toi. Adam, au moment où Dieu lui dit, mais qui t'a appris que tu étais nu? Qui t'a dit de manger de ce fruit? Il dit, mais c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Ça, c'est Satan. Et Satan voudra toujours détruire les couples. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ que ton foyer prospérera et que Satan est vaincu. Au nom de Jésus. Tout ce qui se passe dans ta maison en ce moment, quel que soit le conflit que tu rencontres, je t'assure que la gloire de Dieu et sa faveur soient sur ton foyer et que tu prospères au nom de Jésus-Christ. Et il fera toujours cela. C'est un menteur. Il passera toujours par elle, très souvent. Mais il peut aussi passer par l'homme. Mais c'est plus difficile. Et c'est pour cela que les hommes, et moi là je parle vraiment aux hommes, et c'est là qu'on va atterrir, les hommes, vous devez protéger vos femmes. Et c'était cela le troisième fondement. Satan accorde, tout comme Dieu accorde une priorité très importante à ton mariage, Satan aussi accorde une priorité à ton mariage. La première institution que Satan a mis en haut de la liste de sa feuille de route de combat contre le royaume, c'est les couples. Et c'est pour cela qu'à la maison du bâtisseur, on a décidé de mettre un accent très pointu sur les couples. On ne blague pas avec les couples. Toute personne qui voudra se marier ne pourra pas venir dire comme ça au pasteur, « Pasteur, mariez-nous, on est à l'église depuis 2 ans. Vous avez fait la formation de préparation au mariage. » Non, on ne vous marie pas. Parce que vous devez être enseigné sur ces choses-là. Et Satan est le pire ennemi du mariage. Pour réussir ton mariage, tu vas devoir comprendre les principes. Tu vas devoir comprendre la personne, comprendre et connaître la personne qui est à côté de toi. Et tu vas devoir aussi connaître ton ennemi. Parce que si tu ne connais pas ton ennemi, il va te frapper par derrière. Satan n'est pas un adversaire, c'est un ennemi. L'adversaire, c'est celui que tu as sur le ring en face de toi et qui te dit « Je suis ton adversaire, bats-moi. » L'ennemi, c'est celui qui se cache et qui vient, qui frappe quand tu as le dos tourné. Et ça, c'est Satan. Amen. Et si Satan s'attaque au couple, au marié, au mariage, c'est parce que tout simplement le mariage, et ça on va le voir dans la deuxième partie tout à l'heure, c'est que le mariage a été institué pour une seule chose, par Dieu, pour la domination. Il y a des gens qui vous disent souvent, et malheureusement on entend souvent dans l'église, que le mariage est une bénédiction. Je vais t'annoncer une très bonne nouvelle aujourd'hui. Le mariage n'est pas une bénédiction. Le mariage n'est en rien une bénédiction. Parce que l'homme et la femme sont déjà bénis. Éphésiens 1, 3 dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ dans les lieux célestes. Nous sommes bénis. Au moment où tu rencontres la personne, tu es quelqu'un de béni. Tu n'as, même sans elle, tu réussis. Mais Dieu dit que tu as besoin d'elle pour parvenir à la domination. Et Satan est la femme. Et c'est ce qu'on va aborder demain quand on parlera du rôle de chacun. Satan est tellement la femme. Parce que tout simplement, dans le couple, c'est elle qui fait en sorte qu'ils arrivent à la domination. S'il arrive à la détruire, l'homme ne peut pas dominer. Elle est là pour ça. L'homme a beaucoup plus de responsabilités pour la protéger. Mais elle, son rôle, c'est d'être à côté et de soutenir l'homme jusqu'à ce qu'il arrive au sommet. C'est pour cela que Salomon a consacré tout un proverbe à la femme, Proverbe 31. Elle est dangereuse. Et c'est pour cela que Satan la hait. Satan la hait tellement. Parce qu'il sait que c'est elle qui va l'écraser la tête. Qu'il en fait l'objet de toutes les saletés dans la société. Vous n'avez pas remarqué que les publicités tournent toujours autour des femmes. La sensualité, la pornographie, la sexualité, la parfumerie. Toutes les pubs, on a toujours mettre en avant la femme. On la dévergonde, on la dénude, on la salit. Pour montrer que la femme n'est rien. C'est Satan. Dans la musique, toutes les musiques du monde, c'est toujours « Baby, I love you ». Dès que tu fais une musique qui parle d'autre chose, ta maison de production te dit ça ne marchera pas. Il faut que tu parles des femmes dans ta musique. Pourquoi? Parce que Satan dit que la femme, je vais faire tout pour la détruire. Et c'est pour cela que nous les hommes, on a une responsabilité, c'est que dès le jour où tu rencontres la femme de ta vie, ta première responsabilité, c'est de la protéger. Parce que l'ennemi sait qu'elle est une porte plus vulnérable pour pouvoir entrer. Amen. Gloire à Dieu. Tu vas incliner la tête avec moi. Tu vas incliner la tête avec moi et je voudrais que tu pries. Je voudrais que tu demandes à Dieu que tu lui dises d'abord merci. Merci pour ta parole, Seigneur, pour ce que tu m'as enseigné et ce que j'ai appris aujourd'hui. Mais je te prie, Père, que tu puisses m'accorder la révélation de la connaissance afin que je parvienne, Seigneur, à la compréhension de cette institution glorieuse et divine pour nous amener à la domination. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez fait des erreurs et vous avez expérimenté des expériences douloureuses dans votre couple. Mais sache que Dieu accorde une importance tellement grande à ton mariage qu'il est prêt à tout pour réparer les erreurs qui ont été faites. Alors, je voudrais qu'on s'approche devant le Seigneur et qu'on dise, Seigneur, tu nous appelles à avoir des mariages glorieux. Et à cause de notre ignorance, à cause de notre orgueil, à cause, Seigneur, de nos faiblesses, de nos défauts et de nos erreurs, nous avons expérimenté des choses qui n'étaient pas dans ton plan. La véritable réussite, c'est d'être en accord avec le plan que tu as pour notre vie. Et nous, les hommes, tu nous appelles à la domination et la femme que tu mets à nos côtés est associée aussi à cette domination. Et tu veux que, Seigneur, en tant que couple, nous parvenions à la domination, nous rayonnons et nous détruisons les œuvres du diable. Alors Seigneur, accorde-nous la grâce en tant que couple, Père de grâce, d'être ce témoignage, d'être ce moyen entre tes mains pour réduire à néant toutes les œuvres du diable, Seigneur, dans la société. Seigneur, tu nous ramènes à l'essentiel et tu nous fais comprendre, Père de grâce, que maintenant vous devez mettre une priorité sur les couples. Maintenant, vous devez mettre une priorité sur les foyers, sur les familles, parce que tout simplement, il y a trop de couples qui sont malades. Et je veux prendre soin de mes enfants. Je veux que les couples dans mon église soient des reflets de ma gloire. Je veux mettre un vin nouveau. Jésus-Christ a dit, prenez les vases qui sont destinés à la purification et mettez-y de l'eau dedans et cette eau se changera en vin. Les vases à la purification nous montrent simplement que si nous nous consacrons totalement à Dieu, il mettra un vin nouveau dans notre couple. Il mettra un vin nouveau dans notre mariage et notre mariage brillera au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que jusqu'ici, tes enfants, Seigneur, ont marché, Seigneur, avec le vin naturel, avec le vin que nous donne la société, avec l'amour, Seigneur, que nous donne la société. Mais tu nous appelles, Seigneur, à expérimenter l'amour agapao, l'amour divin entre couples. Et nous te disons simplement, merci Père pour ce que tu es. Merci Père pour ce que tu fais, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. À toi soit la louange et à toi soit la gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, sois élevé, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté pour l'œuvre que tu as commencé, Seigneur, dans nos vies et que tu rends parfaite dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, à toi soit la gloire, à toi soit la louange. Merci Seigneur pour la restauration, pour la consolation que tu mets dans les couples, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, Seigneur, dans les couples. Et merci Père, parce que tu vas lever dans ton église des couples mariés, heureux, épanouis, solides, qui vont refléter ta gloire aux yeux du monde, être cette lumière qui rayonne et qui éclaire tout le monde. Et les hommes viendront et diront, oui, voici. Voici ceux qui reflètent la gloire de Dieu. Voici les fils de Dieu. Car la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils. Que Seigneur, tes fils soient manifestés au travers des couples mariés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père. À toi soit la louange et la gloire. Que quelqu'un se lève et acclame simplement le Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur. Tout ce que tu veux, merci. Merci Père, ce que tu fais. Oh Dieu, bénis sois-tu. Bénis sois-tu. Bénis sois-tu. Alléluia.
Espérons que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.